parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 22h minuit, Confidence, l'émission sans tabou, avec Vanessa sur Beurre FM.
Ah, je ne sais pas si je suis en avance ou en retard concernant le changement d'heure, Nicolas.
Nous ne sommes toujours pas en heure d'été, non.
Toujours pas. Bon, bah, écoute, je voulais tellement faire venir le plus rapidement possible le beau temps. Bah, que veux-tu, hein? Voilà. Bon, à 21h. Ben non, il est 22h. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Quelle joie, quel bonheur de vous retrouver ce soir, chers amis, pour terminer la semaine ensemble et en beauté. Voilà, avec plein d'amour. Ben ouais. Plein d'amour. Ça vous parle, l'amour? Ben oui, nous sommes le 14 février aujourd'hui. Et qui dit 14 février dit Saint-Valentin, la fête des amoureux. Eh bien, nous allons parler d'amour ce soir, si vous le voulez bien. Hein, ça va changer un petit peu. Hein. Mais avant de vous donner la parole, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous, une pensée également aux personnes incarcérées, ainsi qu'à vos familles. On n'oublie pas les courageuses et les courageux du soir, vous qui travaillez de nuit. Une pensée également aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens, sans distinction aucune. Voilà pour la peine. Eh bien, vous l'avez entendu, Nicolas. Donc, c'est lui qui réalisera cette émission, qui vous répondra au standard. Nicolas, bonsoir.
Mais oui, du coup, bonsoir, Vanessa. Bonsoir
on
à
tous. On fait comme si on ne s'était pas parlé, tu vois.
Voilà, absolument.
Voilà, donc, tout prêt, hein, Nicolas, et moi aussi.
Alors,
donc,
les auditeurs aussi sont déjà là au standard.
Ah oui,
tout va bien.
Belle surprise, ils sont là, ils ont raison. D'ailleurs, aujourd'hui, ils vont nous dire, vous parler de... Ben, s'ils sont amoureux ou pas, s'ils croient encore en l'amour ou pas, enfin, ou si, on verra. Voilà, et bien moi ce soir, j'ai décidé de vous parler d'amour, si vous le voulez bien, chers amis. D'accord? Donc, je pense que vous allez être nombreux à vouloir évoquer ce thème, je l'espère, si vous y croyez encore. Alors, 14 février, Saint-Valentin, la fête des amoureux. Nous parlerons tout à l'heure de l'origine, hein, parce que beaucoup de gens se posent la question, pourquoi, hein, d'où vient cette fête? Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Eh bien, fête des amoureux, et qui dit fête des amoureux, l'usage voudrait que chaque année, les amoureux fêtent, chacun à sa façon, hein, chaque couple ou chaque personne, à sa façon, la Saint-Valentin. Eh bien, cette année, moi, Vanessa, j'ai envie de bousculer les habitudes. Et là-dessus, je pense que vous commencez à me connaître en vous proposant un thème en opposition. Oui, en opposition, parce que j'ai pensé aussi un peu aux autres. Hein. Alors, avec l'opposition, en opposition avec le concept hein, de la fête des amoureux, etc. Ben, c'est mon côté que peut-être beaucoup connaissent, hein, mais je pense que vous commencez à me connaître un petit peu. C'est mon côté anticonformiste hein, qui va s'exprimer ce soir encore une fois. 01 53 48 3000. Alors ce soir, eh bien, la fête des amoureux, moi je la transforme en fête. Écoutez bien. Alors, l'amour impossible. L'amour impossible. Bah ouais, parce que ça fait un peu, excuse-moi du terme, cucu, la praline. Hein. Fait des amoureux, là, hein, les petits oiseaux dans la tête, sur son petit nuage rose. Si, bon, les amoureux, ce soir, ils sont ensemble, autour d'un dîner aux chandelles. Peut-être qu'ils nous écoutent même pas, je sais rien. Alors donc, je vais pas penser à eux s'ils pensent pas à nous. Hein. On va penser aux autres. Bon. Et puis surtout, un sujet qui est rarement abordé, hein, si vous l'avez remarqué. Donc, c'est l'amour impossible. Alors, celui-là, il fait mal. Hein. Ouloui, aïe, aïe, aïe. Alors, l'amour impossible, on s'y accroche aveuglément. Alors, les raisons, elles sont multiples. Hein. Je pense que chacun, à sa manière, peut se faire une idée. Donc, la différence d'âge, de milieu social, ou une trop grande distance géographique, un engagement ailleurs. Il y a des personnes qui sont mariées, et il n'est pas possible de divorcer. Pour, hein. L'amour à sens unique aussi. Ben oui, je t'aime, mais toi tu ne m'aimes pas. Alors, donc c'est un peu compliqué. Et puis aussi le poids du regard des autres. Hein, ouais, pour plein de raisons. Donc on va parler ce soir de l'amour impossible. Alors pour cela, pour l'illustrer, j'ai choisi une citation d'Henri-Louis Mencken. Écoutez bien. « L'amour est comme une guerre facile à commencer, difficile à terminer, impossible à oublier. » Hein, que ça fait mal. Bon, bah écoutez. Hein. Bon. Allez, 01 53 48 3000, amour impossible, mais vous pouvez venir parler d'amour possible hein, aussi. Hein. Pas de souci, hein, vous êtes libre. Hein. Eh bien, tout de suite, je me tourne du côté du standard et je vais accueillir Élodie. Bonsoir, Élodie.
Oui.
Oui, bonsoir. Bienvenue, Élodie.
Oui, bonsoir.
Ça va? Ben, bienvenue à toi. Éteins ta radio, le haut-parleur. Je ne sais pas ce que tu as laissé d'enclencher, là, d'allumer. Tu as éteint? Élodie?
Ah oui.
Oui. C'est fait?
Comme ça, c'est bon?
Ben, si tu l'éteins, ça va aller. Mais il faut éteindre la radio ou le haut-parleur. Hein, les deux, hein.
J'ai pas de radio et j'ai pas de haut-parleur.
D'accord, ça résonne un peu. On va faire
pas
avec.
Parce que je suis
Tu es.
Ça capte pas. Je suis à Casino et la radio, ça capte pas.
D'accord, donc.
Et bon. Je suis dans un centre.
Ok, un centre de.
Un centre de rééducation et d'insertion professionnelle pour travailleurs handicapés.
D'accord.
Comme j'ai
très bien. Ah ben écoute, très bien. Et donc tu voudrais nous parler d'amour ce soir?
Là, ça va la peine.
C'est la Saint-Valentin, tu savais pas?
Ah non, je savais pas.
Eh ben, je te le dis. Hein, nous sommes le 14 février. Non, tu voulais parler d'autre chose, tu es libre, hein, je n'impose rien. Tu voudrais nous parler de quoi, Élodie?
La Saint-Valentin, ça se fête encore?
Ben, il y en a qui fêtent, ouais.
Ah.
Ouais. Sinon, tu voudrais parler de quoi? Parce que si tu as appelé, c'est que tu avais une idée. Alors donc, on va jusqu'au bout de ton idée. Il n'y a pas de souci, on est là, je t'écoute. Ben, elle n'a pas d'idée. c'était juste pour me faire un petit coucou. Hein?
Oui, voilà.
Bon, ouais. Ben, écoute, Élodie, je t'embrasse très très fort et je te souhaite que du bonheur et une réussite, en tous les cas, dans tes projets.
En fait, ouais.
D'accord?
Oui, ok.
Tu voulais dire quoi?
Rien non, d'autre? Ouais, que j'ai pris que le formation. Pour être dans vendeur en magasin. Ouais.
Ah, tu veux parler de ta formation? Alors, vas-y. Je pensais que c'était juste un petit coucou. Tu fais une formation de quoi?
Ben, OCM. C'est vendeur en magasin.
Ah, c'est bien. Pour faire de la vente. Vente de quoi? De vêtements, d'alimentation, de...
De vêtements.
Ah, c'est bien.
Et de sport. Dans les magasins de sport.
Ah, bien. Oui. Ah oui. Ben, écoute, ça te plaît? C'est ça qui est important.
Ouais, je vais faire des stages, moi. Je suis là pour un an.
D'accord. Ah ben écoute, c'est bien. Et les gens que tu côtoies là-bas, ça va? Tu t'es fait des amis?
Ouais, parce que là, pour l'instant, je suis toute seule dans mon groupe. C'est la première fois où je pars aussi loin. Voilà.
Et t'es toute seule dans un groupe, alors non? Donc t'es pas. Mais, c'est plus un groupe, Élodie. Je suis toute seule dans mon groupe. Bah ouais.
Non, il y a des gens avec. On travaille ensemble.
Voilà, mais tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps, je suppose.
Oui, je viens d'arriver d'accord. Il y a deux jours. Oui.
Voilà. Bon, eh ben, écoute, tu verras que petit à petit, hein, tu vas te faire des amis. Hein, c'est le but aussi.
Oui.
Hein? Et puis comme ça, tu nous en parleras. C'est dans quelle région?
C'est l'Hérault.
L'Hérault?
L'Hérault, oui.
D'accord. Ben, écoute, tu nous raconteras un petit peu ton parcours. Hein, on va attendre un peu que tu t'habitues un petit peu à l'endroit et que tu t'acclimates. Tu nous rappelles, ok?
Ok, ouais.
Je t'embrasse très fort, ma chérie. À bientôt. Oui,
à bientôt.
Au revoir. Au revoir.
Bon week-end.
Bon week-end aussi. 01 53 48 3000. Alors, on va prendre des appels. Alors, avant de prendre des appels, j'ai envie qu'on parle un petit peu de la Saint-Valentin, parce que beaucoup ne connaissent pas trop... le sens, l'origine surtout de cette dite fête des amoureux. Hein. Alors, on va voir les origines. Alors, donc déjà, Saint Valentin, c'est religieux. Hein. Donc, c'est un saint. Forcément, c'est une fête chrétienne. Enfin, les origines, hein. Pas la fête. Hein. Non, attention. Hein. La fête n'est pas chrétienne, mais les origines. Voilà. Donc, la Saint Valentin est une fête très ancienne. Donc, je vais vous dire elle est considérée comme la fête des couples. Hein. Alors, qui était Valentin? C'est surtout ça qui nous intéresse, d'accord? Alors, je vous passe tous les chapitres. Alors, la vie du saint, alors donc Valentin, que l'on célèbre tous les 14 février, eh bien, Valentin serait un prêtre chrétien qui serait mort en l'an 270, donc 270 après Jésus-Christ. On dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages chrétiens dans la clandestinité. Vous voyez, l'empereur avait interdit ces mariages en constatant que les chrétiens, une fois mariés, refusaient de s'engager dans les légions militaires. Il y avait beaucoup de guerres à l'époque, militaires, pour ne pas quitter leur famille. Donc, Saint-Valentin serait donc mort en défenseur de l'amour et du mariage. Voilà, donc, et puis donc, depuis l'année 1496, c'est à partir de cette année-là que la Saint-Valentin est officiellement, enfin, Saint-Valentin lui-même est devenu officiellement le saint patron des amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI. Voilà, comme ça vous en savez un peu plus quand même, d'accord ? Vous dormirez un peu plus intelligent ce soir grâce à moi. 01 53 48 3000. On va aller du côté de Grenoble accueillir Radia. Bonsoir Radia.
Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Tu es trop forte.
Ah bon,
tu viens de dire que ce soir on va dormir moins bête entre guillemets. Mais...
J'ai pas employé le mot de bête, hein. Tu as remarqué.
Je
hein.
sais pas ce que tu as dit, mais bon,
un peu plus intelligent.
Ok. Moi, d'accord.
Et moi avec vous, parce que j'ai fait la même chose. En même temps, j'apprends. Hein. En vous informant, je m'informe.
Tu t'informes et continue comme ça. En tous les cas, tu t'informes pour une bonne cause et pour nous aider justement, nous informer, à comprendre les choses de la vie et tout ça. Parce que,
j'en apprends en même temps, j'en apprends.
Voilà, on
apprend
avec vous.
Voilà.
Ah non, mais je voulais juste te dire que tu es trop forte, que bon, trop forte peut-être ça n'existe pas, mais tu es très forte. Tu es très forte et continue comme ça.
Bah dis donc. C'est gentil, je me vois pas comme ça, c'est trop
mais
gentil.
Mais si, je peux confirmer parce que, en plus de tout ça, je peux confirmer et assurer que tu es doué, quoi. Moi, j'irai pas jusqu'à dire que tu as un don. Bon, je préfère ne pas trop rentrer dans ces détails-là, mais tu es doué et.
C'est très gentil.
En tous les cas, pour nous apporter beaucoup de bonheur.
Merci beaucoup, Radia. Merci à vous d'être fidèle, en tout cas.
Alors,
merci,
en tous les cas, on est fidèle. Moi, justement.
Oui.
J'y pensais tout à l'heure, et puis quand tu as parlé du sujet d'aujourd'hui, j'ai dit tiens, ça tombe bien. Mm-hmm. Mais avant de parler de ça, le sujet d'aujourd'hui, je voulais rebondir sur le sujet d'hier, c'était le célibat.
Ah, le célibat, et, oui.
Donc je tenais à saluer Liès, je crois. C'est Liès qui.
C'est Lounès.
Lounès,
oui.
Donc je lui fais un petit coucou et il est très apaisant ce garçon.
C'est vrai, très pertinent dans ses
passages. Ah oui, j'aime bien ses passages, est très doux, très calme, très bon. Donc je lui fais un petit coucou et c'est vrai que je bois ses paroles.
Ah bah c'est joli, et ça va lui faire plaisir en tout cas.
Donc quand il a parlé, il a partagé le célibat, il a parlé des célibats choisis et du célibat
subi. Oui.
Et moi ça m'a fait tilt et j'ai dit au fait quand moi je suis dans un célibat choisi ou subi. Je me suis posé la question.
Ah bon?
Ouais, je me suis posé la question parce que bon, je suis célibataire, mais
d'accord.
Après je me dis je voulais lui rajouter ma déduction c'est ça a commencé par un célibat choisi puisque j'ai divorcé.
Oui.
Et je l'assume et c'était réfléchi, pensé, tout ça. Et donc c'est un célibat, disons entre guillemets choisi, quoi, qu'on choisit jamais de divorcer comme ça délibérément, quoi. C'est
oui. C'est il y a toujours une bonne raison.
Oui, une bonne raison pour divorcer.
Voilà. Donc, on se réveille pas un beau matin en disant mais si je divorce, tiens, on essaie.
Je m'en vais.
Voilà.
Non, c'était pas. Donc voilà. Donc
bien sûr. Ouais.
Mais après justement, c'est tellement bien réfléchi, tellement décidé que on se dit non. Mais bon, ok, d'accord, ça va pas, je divorce. Mais plus jamais d'homme dans ma vie, quoi. C'est voilà, je tiens.
Ah oui.
Ah oui, mais quand tu rêves, tu te maries jeune, tu restes 30 ans de ta vie avec le même homme, et pour toi, la solution de tes malheurs, c'est le divorce. Mm-hmm. Et après, pour arriver à divorcer, c'est la croix et la bannière, comme on dit. C'est très, très dur. Après 30 ans de mariage, c'est très dur.
Ouais.
Et là, tu te dis, mais si je divorce, si j'arriverai à ça, plus jamais de d'hommes, quoi. On a tellement attendu, c'est tellement, chèrement payé la liberté. C'est très, très, on l'a payé très cher, notre liberté. Du coup, une fois on l'a, on ne veut plus la perdre. Donc c'est pour ça que je parle du célibat choisi, c'est-à-dire
oui,
que
oui,
voilà,
oui,
je suis libre,
oui.
Pour une fois je suis libre, enfin je suis
oui,
libre.
Libérée.
Voilà, libérée. Oui, oui, voilà. Donc je profite de la vie, voilà, j'ai ma liberté entre les mains, je ne veux pas la perdre.
Oui.
Et c'est pour ça que je me disais, bon, donc ça part des fois d'un célibat choisi.
Oui.
Voulu, désiré, tout ça. Mm-hmm. Mais après, on le subit. Après, après quelques années, tu m'as toujours dit, en tous les cas, Vanessa, moi, tu m'as accompagnée dans mon divorce, d'ailleurs. Et depuis que je suis divorcée que je suis ton émission, parce qu'avant, c'était pas possible. Mm-hmm. Et du coup, à chaque fois que je te parlais de ça, que c'est impossible, pas d'homme dans ma vie, tout ça, tu me disais, mais non, tu vas voir, l'être humain, il est comme ça, on n'est pas des sauvages, on ne peut pas vivre.
Non, on n'est pas des ermites, on n'est pas fait pour. C'est difficile de. On se bande. Oui. Il y a des personnes qui, bon, je les comprends en même temps, qui arrivent à se mentir à elles-mêmes en disant non, je suis. Bien, voilà, je suis bien comme ça et je ne veux plus d'homme dans ma vie, etc. Mais si tu pousses la discussion un petit peu, et à un moment donné, elles se trahissent, elles te disent, et tu comprends que, bon, elles aimeraient bien quand même, tu vois.
Oui, c'est sûr.
Parce que ça ne peut pas durer. Bien sûr que quand on sort, comme toi, au bout de 30 ans de mariage avec des moments très difficiles, très douloureux, de nombreuses années où, où ça n'allait pas, bien entendu que...
Tu rêves que d'une chose, ça devient un rêve.
Oui, parce que tu apprécies chaque moment de liberté. C'est la solitude, c'est plus de la solitude, c'est la tranquillité, tu vois, c'est la paix. C'est l'apaisement, c'est la paix, la sérénité. Et tu l'apprécies, tu te réveilles le matin, tu dis oh, j'ai la paix, j'entends pas crier, j'entends pas les insultes, je suis pas dans la peur, etc., dans le stress, dans l'anxiété. Voilà. Mais ça, c'est bon, ça dure un temps.
Oui,
mais au bout d'un moment.
Et oui, c'est pour ça après que je me dis, mais au bout d'un moment, c'est un célibat subi, quoi.
Ça devient pesant quand même. Hein.
Ça devient pesant et c'est un célibat, on le subit, quoi. On le subit par la force des choses.
Mm-hmm.
Et donc voilà, c'était pour répondre à Lounès.
Mm-hmm.
Et donc on peut dans la même, donc la lignée, c'est ça. Ça commence par un célibat choisi, après ça devient un célibat.
Et aujourd'hui, alors au fur et à mesure, bien sûr, ce célibat choisi pour finalement choisi.
Oui.
Pas vraiment choisi, mais c'est une forme de liberté. C'est un passage. Voilà, on va dire un passage de 30 années mouvementées à un peu de sérénité. Mais ce n'est qu'un passage, c'est un tremplin. C'est quelque chose qui ne peut pas durer, c'est pas possible. Tu comprends? Tu apprécies juste après. C'est comme quand on est malade.
Oui,
eh bien, quand on guérit, quand on est guéri, tu sais, quand on subit une intervention chirurgicale quand on était très malade et que après, au moment de la guérison. Tu apprécies ta bonne santé.
Mais au moment,
après, eh bien, alors écoute-moi, après, tu t'habitues à la bonne santé. Après, tu oublies qu'un jour, tu as été malade. Donc, ce qui fait que ça devient une normalité, tu n'apprécies plus comme les lendemains de la guérison. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Quand on quitte un mariage, quand on divorce, parce qu'on a, on a tellement souffert, on apprécie quelques temps de solitude, d'apaisement, j'ai envie de dire. Mais après, ma chérie, au bout d'un certain temps, ça devient pesant. Et t'as envie d'avoir un compagnon de route, j'ai envie de dire. Un compagnon de route, quelqu'un avec qui tu peux échanger, quelqu'un qui se soucie de toi. Quand tu es malade, c'est triste quand même, tu sais, on est resté des enfants dans nos têtes. C'est-à-dire qu'un petit enfant, quand il est malade, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se plaint à maman. Et quand maman, elle vient, et puis elle nous dorlote, etc., nous soigne. Oh, rien que le fait qu'elle pose ses mains sur nous, notre maman, eh bien, on est tellement bien, on est presque guéri. Eh bien, tout ça, c'est psychologique. Eh bien, un homme à tes côtés, c'est pareil. Tu comprends?
On avait déjà discuté de ça, donc c'est pour ça que je... Et aujourd'hui, en rentrant du boulot, je croise un couple de personnes assez âgées, quoi, vers les 70 ans, quoi. Et ils ont pris l'ascenseur avec moi et il dit, je sais pas ce qu'elle lui a dit sa femme, il lui dit oui mon cœur. Et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai dit qu'est-ce que c'est mignon, qu'est-ce que c'est beau.
Bien sûr, c'est beau.
C'est
magnifique.
Un couple qui dure dans la... Il m'a dit, ça fait 50 ans qu'on est
mariés. Tu sais pourquoi t'arrives? Parce que t'as jamais entendu ton père dire à ta mère mon cœur. Albien d'hakté. Anartan et kendrak.
Voilà,
non, d'accord, non.
C'est sûr, comme je l'ai vu.
Mais non, mon cœur m'a la banane gaz.
Oui, je l'ai félicité. Ben, je lui ai dit, je vous félicite, monsieur, dame, parce que là, ça fait plaisir. C'est tellement mignon de vous voir comme ça.
Ouais. C'est culturel, ça, c'est culturel,
oui,
ça.
Et elle, sa femme, elle me dit, hey, justement, et puis c'est comment dire, elle me dit, en plus, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui.
Oh, bouzide, ben, bouzide.
Oui, bouzide. Je lui ai dit, ben, félicitations.
Zédélé, en plus.
Et passez une belle soirée, tout ça. Donc, lui, il rigolait, il me dit, oh, vous savez, c'est les 40 premières années. Après, ça va tout seul et tout. Bon, donc, et là, oh, et ça m'a fait penser, mon Dieu. Ouais. C'est vrai que c'est beau.
Ah oui.
Quand là,
ah, oui.
C'est le vrai amour, l'amour véritable, ou voilà, ah, il me dit, oui. 50 ans de mariage, et il a tellement. Elle m'a dit, il m'appelle mon cœur ou ma fleur?
Oh, mon Dieu.
Quand tu parles à sa femme, il dit mon cœur ou ma fleur. Alors j'ai dit ça, c'est magnifique.
Attends, j'ai envie de dire, comme Tsubao, vous êtes en train d'écouter les autres là? Au bout oui. De. Voilà, quel âge ils ont ce couple?
Les 70 ans. Dans les
70 ans, vous entendez?
Alors, dans les 70 ans.
Voilà, est-ce que mesdames, vous, entre 70 et 80 ans, vos maris vous disent mon cœur, ma fleur? Il warda dieli.
Il warda dieli.
Il warda dieli.
Donc, voilà, donc je me suis dit, mon Dieu, mais c'est vrai. Heureusement que ça existe, heureusement qu'il y a des couples. Et je leur ai dit, tenez bon, voilà, restez ensemble, tenez bon. Mais ne vous inquiétez pas.
Ah, ben non, c'est. Ouais, oh là là.
Et du coup, là, quand tu as parlé, toi, j'ai dit, mais c'est vrai que. Il y a un jour, en plus, je t'avais appelé pour, justement, pour l'amour impossible. C'était pour le sujet d'aujourd'hui.
Oui, oui.
Et tu m'avais parlé de. Quand on parle de la loi de l'attraction, tu m'avais parlé de la loi de l'interdit. C'est-à-dire que on s'inflige ça. C'est-à-dire qu'on se met dans sa tête, on se braque dans sa tête, on se dit impossible. Donc qu'est-ce que je fais? Toutes les possibilités que tu as, tu les fermes, mais tu vas vers une aventure ou quelqu'un que c'est impossible. Tu sais que c'est impossible.
Oui.
Et une fois tu m'en avais parlé, tu m'avais parlé de ça. Et une fois j'ai entendu parler à la télévision, c'était un psychologue. J'ai dit tiens, mais je vais demander à Vanessa. Elle a fait des études dessus ou c'était juste comme ça. Et tu m'avais dit non, mais c'est parce que dans ta tête tu t'interdis. Et du coup, tu vas...
C'est ça.
Quand il y a une possibilité, tu te l'interdis, mais tu te permets peut-être de rêver, de fantasmer sur une relation impossible.
Je me souviens de toi, c'est exactement ce que je t'ai dit, parce que tu relates mes propos. Je me souviens de toi, c'est vrai, c'est ce que je t'ai dit à ce moment-là. Oui.
Je te rappelle. En tous les cas, moi, j'ai vu qu'à chaque fois que je te rappelle et je te parle de n'importe quel sujet, et tu reprends le fil, c'est comme si je t'avais parlé la veille, tu me dis, oui, mais je me souviens de toi, tu m'avais parlé de ça et ça et ça.
Oui.
Donc voilà, c'était pour revenir sur le célibat imposé, plutôt choisi et subi.
Et qui devient subi, parce
et
que...
Après,
qui devient même pas subi, qui devient pesant, j'ai envie de dire, hein.
Après, qui devient tu le subis, mais qui devient pesant,
lourd.
Dos, voilà, tu te prends un fardeau, tu le mets sur le dos et tu le gardes.
Voilà.
Tu es obligé de le garder parce que tu peux pas te poser, tu peux pas.
Oui, mais bon, on peut y pallier, hein. On peut changer les choses, hein. On peut.
C'est pas simple, c'est pas facile, c'est
comme
pas
je te le disais, c'est tout est dans la tête.
Oui, donc voilà,
c'était ça.
Donc voilà, c'était pour revenir sur ce sujet-là. En tous les cas, je te félicite.
Merci.
Et aujourd'hui, Saint-Valentin, rien, aucun appel, aucun. du coup, j'ai dit, je vais appeler Vanessa.
T'as bien fait. Voilà, on fête la Saint-Valentin ensemble.
Voilà, d'accord. Merci beaucoup.
On s'aime, on se dit qu'on s'aime. Allez, je t'aime très fort, Radia.
Merci.
Je t'embrasse.
Merci.
À bientôt, ma chérie. Merci, à très bientôt.
Au revoir.
01 53 48 3000, c'est la Saint-Valentin. On va se dire qu'on s'aime là ce soir. Allez, je vous aime. On s'aime et c'est important. D'accord? Donc ce soir, eh bien, c'est peut-être pas le thème approprié, hein, puisqu'il est vraiment presque à l'inverse du thème, puisque ce soir nous parlons des amours impossibles, de l'amour ou des amours impossibles. Hein, d'accord? Donc venez en parler à l'antenne. Venez apporter vos témoignages. Peut-être que Leïla, elle a des choses à dire là-dessus. Leïla du 93, bonsoir. Bonsoir Leïla, du 93.
J'habite Villepinte.
Bonsoir.
Et j'appelle moi tout simplement pour dire à mon mari et à mon fils que Bah, que je les aime et que ce soir, bah, ils font tous les soirs la maraude pour les SDF.
C'est bien.
Ça n'a rien à voir avec le célibat, mais c'était pour leur donner du courage pour ce soir.
Bravo.
Et pour leur dire que ben, je vous écoute tous les soirs, Vanessa, malgré qu'ils ne le savent pas. Ils pensaient que j'écoutais pas vos émissions. Et être célibataire, bah, c'est très dur, mais je conseille à tous les célibataires de prendre leur temps, de ne pas rentrer dans un mur, parce que la vie à deux, c'est compliqué, c'est pas simple. Et c'est pas tous les jours rose, donc faut prendre tout son temps. Moi, je me suis mariée à 33 ans et sans regret. J'ai pris tout mon temps et aujourd'hui, il y a des journées avec et des journées sans. Et j'en reviens au monsieur d'hier qui a dit que les Algériennes n'étaient pas romantiques ou les Marocaines étaient... Voilà, c'est complètement débile. Hein. Il y a du bon et du mauvais partout.
Ouais, Zachary.
Et moi, mon mari, le premier, était marié avec une Marocaine qui l'avait traumatisée. Donc, si
faut pas qu'on vienne à ça, c'est absurde.
Voilà,
Oui, parce que si on commence à...
Les gens qui jugent les gens, moi je trouve ça complètement débile parce qu'il y a du bon et du mauvais partout. Je faisais un petit appel à tous les célibataires qui prennent vraiment leur temps parce que vivre à deux, c'est bien, mais il faut que ce soit beau et dans la paix.
C'est dit. Ok, voilà. Merci Leïla.
Et voilà, je leur dis encore un bon courage et à tout à l'heure. Voilà. Merci.
Allez,
Vanessa, bisous. Vos émissions sont superbes.
C'est
merci
très gentil. Beaucoup. À bientôt Leïla.
Merci, au revoir.
Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Oui, elle a fait référence à Zachary, hein, qui a appelé hier. Il a failli faire une polémique. Bon, heureusement, j'ai calmé un peu les choses, mais c'est pas possible. Je sais pas. Il est algérien, hein, lui-même, hein, et puis il dit, elles sont pas assez douces, elles sont, je sais pas, enfin, voilà. Donc, il a dit que les femmes marocaines étaient plus douces. Enfin, c'est du non-sens. Voilà, tout simplement, hein. Arrêtons avec les généralités. Il n'y a pas un pays où les femmes sont comme ci et les hommes sont comme ça. Et dans un autre pays, les gens sont différents. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, dans une fratrie, nous sommes différents. Entre sœurs, entre frères, on est différents. Alors, imaginez dans un pays. Non, c'est absurde. Non. Il y a des gens qui sont... Voilà. On est tous différents. Il y a des personnes qui sont plus douces que d'autres, d'autres plus nerveuses, d'autres... Bref, enfin... On est différents, Adam Ecken, ça suffit avec ces polémiques à la noix, hein, vraiment. Allez, 0153 48 3000. Ah, eh bien, alors, on va aller à Villejuif accueillir Karima. Bonsoir Karima de Villejuif.
Bonsoir,
bienvenue.
Merci, vous allez bien Vanessa?
Oui, très bien ma chérie, bienvenue. Alors,
Moi je vous appelle, c'est un peu hors de sujet, mais j'ai besoin de vous parler en fait.
Tu peux, il n'y a pas de souci, tu ne seras jamais hors sujet. Tu peux y aller.
Merci. En fait, je vous appelle parce que je suis un peu perdue dans ma tête.
Ah, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi.
Moi, je suis mariée, j'ai des enfants et je n'ai pas de problème avec mon mari, mais je ne l'aime pas. Je ne le déteste pas, mais je ne suis pas amoureuse de lui, en fait.
Et pourquoi tu l'as épousé? C'est la question, hein.
Oui.
Pourquoi?
Parce qu'il m'aimait trop et je voulais pas l'abandonner comme ça. Je l'ai épousé par pitié, en fait.
On se marie par pitié.
Je sais, c'était l'erreur de ma vie. Je voulais pas l'abandonner.
Tu voulais te marier, c'est tout, pour avoir le statut de femme.
Non, pas du tout. Ah non.
Tu peux pas te marier avec un homme et en plus te retrouver avec lui dans l'intimité pour pas faire de dessin. Juste parce qu'il te fait pitié, sinon tu fais monter chez toi tous les SDF qui sont dans la rue, qui te font de la peine et à la queue leu-leu, ils montent et chaque soir t'en as un et... puisque t'es Mère Teresa, que t'as pitié des gens.
Non, c'est pas ça, je me suis peut-être mal exprimée, mais je veux dire, il était tellement fou amoureux de moi que je voulais pas l'abandonner, vous voyez.
C'est pas parce que les gens sont amoureux de toi que tu te maries avec tout le monde.
Ah oui.
T'es bizarre, toi, quand même, comme fille. Tu avais quel âge quand tu t'es mariée?
25 ans.
D'accord. Et aujourd'hui, tu as quel âge?
33 ans.
D'accord. Et donc, tu l'as jamais aimé, quoi? Comment tu l'as rencontré?
C'était mon voisin.
C'était
mon voisin et c'était une amourette, les amours de, vous voyez, de l'école et tout. Mais voilà, maintenant, je me retrouve sans amour, sans rien. On n'a pas de problème, on a aucun souci, sauf que...
C'est dur, ça, de vivre avec une personne. Lui, il t'aime et toi, non. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure.
C'est très dur.
C'est à sens unique. Oui, pardon.
Oui, voilà. Et même de son côté, je pense que...
Il doit t'aimer, mais oui, voilà. Il doit t'aimer, mais il est las, quoi. Parce que, tu sais, au bout d'un moment, les gens se lassent. Hein. Voilà, quand il n'y a pas de retour, que toi tu...
Ben, tu... Mais moi, je ne le montre pas, en fait.
Je
ne l'aime pas.
Ouais, mais bon, il ressent, hein, il le sait. Hein. Oui. Est-ce que tu le prends dans tes bras, tu dis que tu l'aimes?
Non.
Ah ben voilà, comment tu veux qu'il sache?
Mais il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de bisou, il n'y a pas de mot d'amour, il n'y a rien. C'est comme si... il y a des câlins, mais...
Ça veut dire que c'est comme si tu vivais avec ton frère.
Il y a de l'intimité, mais sans plus, quoi. Vous voyez, c'est par devoir.
C'est mécanique, si devoir.
Mécanique.
Mon Dieu, devoir. Ouh là là. C'est terrible. Ouais. Quand ça m'arrive là, tu te rends compte? Tu as des enfants?
J'en ai, oui.
T'as combien d'enfants? Trois ou moins?
Trois.
Ouais. Enfin, j'ai bien deviné. Ouais. Ils ont quel âge, tes enfants?
6 ans, 4 ans et demi et 2 ans.
Oh là là.
Ouais.
Et
je ne sais pas quoi faire. Franchement.
Ah oui, il y a les enfants là, hein, quand même. Hein.
Oui, il y a trois. Les enfants. Donc, je me dis, je fais tout ça pour mes enfants, quoi.
Et est-ce que tu as eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre à un moment donné? Parce que.
Oui.
Eh ben voilà, c'est ça. Parce que. Oui. Bah oui.
Mais après, c'était sans plus non plus. Enfin, c'était. Il n'y a rien eu, quoi.
Non, mais tu n'as pas de justifié. Hein. On n'est pas là à juger qui que ce soit. Hein. Oh, et c'était qui, cette personne?
C'était un collègue de travail.
D'accord. Donc il y a eu un coup de cœur pour lui, un coup de foudre, quoi.
Pas vraiment un coup de foudre, mais j'aurais aimé être avec cette personne, vous voyez.
D'accord, ouais. Et lui
mais
aussi.
Après, c'est pas à cause de cette personne que je vis ce que je vis avec mon mari.
Oui, non, mais j'ai compris. Justement, c'est pour ça que je te posais la question, parce que ça va dans le sens, quoi. S'il n'y a pas d'amour, tu t'es mariée très jeune, à 25 ans, et que tu n'étais pas amoureuse, et que tu ne l'aimes toujours pas, et que tu te forces pour certaines choses, etc.
Ouais.
Au bout d'un moment, tu peux pas y échapper. Parce que c'est tes sens qui sont en éveil, qui réclament. Tu comprends? Donc, forcément, qu'à un moment, le cœur se met à vibrer et à battre. Et il le sait, lui, cet homme, que tu étais amoureuse de lui?
Non, j'ai rien montré, non.
Ah, il le sait pas? Ah, oui,
il le sait pas, non. Et puis, j'ai oublié maintenant, j'étais.
D'accord. Ouais, donc il s'est jamais rien passé avec lui.
J'ai changé de boulot et puis non, il a rien su, non. Donc, vous êtes la jamais... première à savoir.
D'accord. Ah, c'est compliqué, hein, ces histoires, hein, Karima.
C'est très compliqué,
hein.
C'est très compliqué.
Aïe, 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 aïe.
Et c'est pour ça, en écoutant Radia, là, je me suis dit, quand elle a dit je suis libérée, je suis.
C'est pas pareil, Radia. Hein.
Oui,
c'était terrible ce qu'elle a vécu. Elle a été malheureuse. Ça,
moi,
hein, voilà.
Moi, je suis pas. Voilà. Je suis malheureuse, oui, mais pas. J'ai pas
soucis, oui, c'est,
vous voyez, j'ai
c'est
pas.
C'est une autre forme. Oui.
Il est très gentil, mon mari. Il est très gentil. Il est aimé par ma famille. Je suis aimée par sa famille. Vous voyez,
c'est. Ouais, ouais, ouais.
C'est.
Mais tu ne l'aimes pas, ton cœur.
À part l'amour. J'ai aucune cause pour divorcer, vous voyez.
Tu n'as rien à lui reprocher.
À part que je l'aime pas, j'ai rien à dire sur cet homme. Il est vraiment génial, tu vois.
Ouais,
vous voyez, pardon.
Non, tu peux me tutoyer, mais... je te tutoie.
Pardon.
Et tu penses qu'un jour tu vas divorcer?
Franchement, je le souhaite, ouais.
C'est vrai. Ouais.
Oui. Si je suis avec lui, c'est juste pour nos enfants. On est devenu un couple parental, en fait.
Ah oui, enfin, vous êtes juste des parents.
Ouais. Oui, on est des parents pour nos enfants, en fait.
Ouais. Il n'y a rien, quoi.
Il n'y a rien.
Et ça, c'est difficile, hein, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui pourraient dire oui, il faut faire l'effort de machin et tout. Non, tu ne peux pas forcer. Tu peux faire les efforts pour plein de choses, mais son cœur, les sentiments, on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas les inventer, on ne peut pas les créer. C'est compliqué.
C'est ça. Bah, des fois, je me dis, je lui parle, moi, je rentre tard du travail, j'aimerais bien avoir un câlin, un bisou, ça va, ma chérie. Vous voyez, ça me manque tout ça.
Ouais.
Mais si je lui dis de faire ça, je sais que c'est du. Vous voyez, c'est pas. Ça vient pas du cœur.
Mais t'aimerais pas, toi.
Ouais.
Mais t'aimerais pas qu'il te dise qu'il t'aime et qu'il te prenne dans ses bras?
C'est très compliqué dans ma tête, en fait.
Non, mais c'est pas compliqué.
J'aimerais vivre cette situation, mais pas avec cette personne.
Avec quelqu'un d'autre, voilà, je comprends. Avec l'homme de tes fantasmes.
Exactement.
Ouais. Un homme dont tu serais amoureuse.
Je mérite de vivre ça, vous voyez.
Ouais, parce que tu l'as pas connu, ça.
Des fois, je me sens abandonnée aussi.
Forcément, parce que tu donnes pas, tu reçois pas, et puis lui, il a compris que tu l'aimais pas, hein, il est pas dupe, hein. Donc, ouais. Ce qui fait que votre relation, elle est ce qu'on appelle platonique.
C'est ça.
Ouais. Et vous avez parlé de séparation un jour éventuellement?
Non, jamais. J'ai jamais osé.
Ouais.
Non, j'ai jamais osé.
Et puis bon, il y a le fait des enfants aussi, tu vois, quand c'est comme ça, quand on sait que le cœur ne suit pas. Moi, je dis, je dis ce que je pense. Faut éviter de faire des enfants. À la limite, il y en a un qui est venu, bon, allez. Ouais. C'est accident de parcours, comme on dit. Mais en faire trois, là, c'est quand même...
Ouais. Bah, le deuxième, c'était par erreur, mais les deux autres, c'était voulu, quoi. C'était... Je comprends, je sais. Enfin, c'est l'erreur de ma vie. Je dis que c'est l'erreur de ma vie, mais bon, parce que moi, quand je me suis mariée, je me suis jamais mise dans la tête que je vais me séparer un jour. Vous voyez,
ben oui.
Et c'est bon, le mariage, c'est le mariage. Mais après, ce que je vis, c'est l'enfer, quoi. Trop dur de vivre sans amour, quoi.
Ouais. C'est pas
moi,
facile,
je me suis dit, ça va venir. Le fait qu'on va en vivre ensemble, je vais peut-être
aimer
un jour, mais c'est jamais venu, en fait.
Ouais. Ouais, c'est difficile, c'est comme on peut pas se forcer à manger un plat qu'on n'aime pas. Enfin,
voilà,
c'est difficile. Enfin, moi, les deux, vous me faites de la peine, les deux.
Oui.
Lui, il me fait de la peine parce que lui, il n'a pas demandé à vivre cette situation. En plus, c'est quelqu'un c'est un bon mari, c'est un bon papa. C'est un homme presque parfait, on va dire. Donc, rien à lui reprocher.
Rien du tout.
Donc, tu vois, il demande à être aimé et à donner de l'amour, il ne peut pas, parce qu'il est un Ouartané qui ne vit pas.
Il m'aime, mais il ne le montre pas assez, vous voyez.
Oui, mais Karima, il sent que, tu sais, il sent ces choses-là, on est des animaux avant tout. Il sent qu'il ne t'attire pas et tout, ça va être branche, je veux dire.
Il ne m'attire pas du tout.
Il le sait, ça, il le sait à la belle eau. Et toi, de ton côté, tu fais de la peine parce que tu as. Tu ne sais pas ce que, tu sais pas ce que c'est que l'amour, quoi. Tu le sais, mais tu le vis dans le silence à travers d'autres personnes comme ce collègue, mais dans le secret, il y a toi seul qui le sais. Donc c'est très très compliqué. Alors sans jamais véritablement vivre au grand jour cet amour et puis avoir une expérience normale amoureuse, eh bien c'est frustrant d'abord. C'est très frustrant. Et c'est difficile au quotidien, parce que c'est vrai que tu n'es pas une femme épanouie, voilà.
Pas du tout, non.
C'est ça. Tu dois t'épanouir au travail et à l'extérieur, mais à la maison, c'est autre chose. Ouais.
Voilà, c'est ça, oui. Des fois, quand je vois des couples comme ça, j'ai larmes aux yeux, vous voyez, quand je vois des couples complices, ou bien, qui rigolent ensemble, qui parlent ensemble. Nous, on parle presque plus, on se parle presque plus. Enfin, c'est à part les choses du quotidien, on ne parle pas. Ouais.
À 30 ans, c'est terrible. Hein.
C'est terrible. C'est horrible,
Et je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de réfléchir, en train de te juger, on va dire. Hein. En train de dire, oui, mais elle devrait faire l'effort et tout. Alors moi, je tiens à leur dire, on peut pas forcer les sentiments. Les sentiments, c'est pas, on les achète pas au supermarché. Hein. C'est pas possible, c'est pas un vêtement qu'on endosse. C'est très compliqué. Donc, il faut. Voilà. Je ne sais pas quoi te dire. C'est toi qui juge. Et patience. Et puis, tu verras bien ce que l'avenir te réserve. Voilà. Tu verras jusqu'où tu peux aller.
Je reste pour mes enfants. Et après.
J'ai bien compris. Voilà.
Après, on verra le Mektoub.
Il faut laisser faire les choses. Et puis, la vie se chargera du reste. En tout cas, Karima, je t'embrasse. Et bon courage.
Merci beaucoup, Vanessa. Bonne soirée.
Merci. À bientôt.
Au revoir,
ma chérie. Bonne soirée. 01 53 48 3000, voilà, vous voyez, fait partie un peu du thème. Sauf qu'elle a franchi le pas quand même, puisque je parle ce soir d'amour impossible. Hein. Donc, amour impossible, et bien, dans ma petite liste, elle figure, notre amie Karima, puisque je parlais de l'amour à sens unique. Et c'est exactement le cas. Hein. C'est compliqué, ça aussi. Hein. Donc, en général, quand c'est à sens unique, on va pas jusqu'au bout. Bon, elle a été, parce qu'elle s'est dit, elle était jeune en même temps, 20 et quelques années, 24 ans, je sais pas, elle a dû se dire, bon, ça va faire plaisir à mes parents que je me marie. En plus, c'est un voisin, il me sollicite tellement. Elle a dit, il m'aimait tellement, il l'aimait énormément, et elle s'est dit, à un moment donné, peut-être qu'elle finira par l'aimer aussi. Elle a essayé, elle a fait l'effort, vraiment. Elle était jusqu'au bout. Elle a été jusqu'à faire des enfants, en se disant peut-être que les enfants, ça va faire quelque chose. Mais c'est encore une fois reculer pour mieux sauter et se mentir à soi-même. C'est très compliqué. Voilà. 01 53 48 3000. Alors, on va, du côté de Sevran, on va accueillir notre amie Fatima. Bonsoir Fatima, on a beaucoup de femmes
oui,
ce soir. Je prends des hommes après.
Vanessa.
Bonsoir, alors, bienvenue Fatima.
Oui,
bienvenue.
Merci. Merci, j'ai écouté entièrement le témoignage de Karima et j'ai pensé, en l'écoutant, je me disais, est-ce que, parce qu'elle, elle attend que son mari, enfin, il n'y a pas de démonstration de.
Non, non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. T'as pas compris. Il faut comprendre bien le sens parce qu'on a bien parlé.
Oui,
non, c'est pas ça. C'est que elle a jamais éprouvé d'amour pour lui. Tiens, quand t'es pas amoureuse, tu es déjà tombée amoureuse, je pense.
Oui.
Ah bon.
Après, je vais parler de mon cas, mais
après, voilà. Non, mais juste pour voilà. Karima. Alors, pour qu'on comprenne bien, c'est pour ça que j'ai dit, il y a des gens qui vont mal comprendre. Alors, Karima, elle n'a jamais aimé son mari. Elle a jamais été amoureuse de lui. Elle s'est mariée avec lui par dépit. Voilà, vous l'avez entendu. Ensuite, elle s'est dit, ça va venir. C'est jamais venu. Et maintenant, il y a quelque chose qui la repousse parce que elle ne l'aime pas. Elle se force vraiment. Elle ne l'aime pas. Lui aujourd'hui, à force, aujourd'hui, elle silence entre eux et elle ne supporterait même pas qu'il la prenne dans ses bras ou quoi que ce soit parce qu'elle ne l'aime pas. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà,
c'est ça. Je comprends.
Donc c'est pas quelque chose qui se force. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut que ça rentre dans nos têtes.
Ouais,
l'amour ne se commente pas. Et chez Karima. Et vis-à-vis de son mari, elle n'éprouve pas d'amour. Donc, ce qui fait que elle peut plus faire d'efforts. Elle a été jusqu'à faire des enfants pour se dire peut-être que. Mais aujourd'hui, elle se rend compte la réalité. Si tu veux, la rattrape et elle se rend compte que bilan des choses, elle ne l'aimera pas. Elle ne l'aimera jamais, quoi. Quoi qu'il fasse, voilà.
Oui, je comprends.
C'est pour ça que lui aussi, de son côté, il fait de la peine parce que il sait que c'est peine perdue. Voilà.
Oui, je comprends. Non, mais je la juge pas. Je me permettrai pas. Mais je pensais, en allant l'un vers l'autre, que les sentiments naîtraient quoi. Mais je me trompe sans doute. C'est vrai que ça on commande pas aux sentiments.
Mais je me dis ça.
En faisant parce que elle attend. Lui se rend.
Elle attend rien de lui. Hein. Elle a dit je rêve d'avoir. De vivre, quand elle regarde les gens, les amoureux, elle dit de vivre ça, mais avec un autre. Et c'est malheureux à dire. Elle était gênée à le dire. Elle a dit, c'est malheureux de dire ça. Mais je rêve, mais d'un autre homme, mais pas lui. Elle n'accepte rien de lui, elle n'attend rien de lui. Puisque, voilà. Tu comprends ce que je veux dire?
Ouais, je comprends. Mais en même temps, je me dis, dans notre culture, il n'y a pas tellement de manifestations. C'est vrai, il faut avouer.
C'est pas une question de manifestation, parce que comment t'expliquer ? Il faut comprendre là, parce que là, je répète encore une fois, concernant Karima, c'est pas une question de manifestation. C'est elle qui l'a toujours rejetée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, et c'est comme ça qu'elle est bien, parce qu'elle ne supporte pas qu'il vienne vers elle ou qu'il la touche, tout simplement. Tu comprends ? C'est pas une question de manifestation, c'est une question d'amour. Son cœur n'a jamais vibré pour cet homme. Elle ne l'a jamais aimé. Et d'ailleurs, elle est tombée amoureuse d'un collègue à elle. Par la suite, parce que le cœur a besoin aussi un jour de vibrer, que ce collègue n'a jamais été au courant. Elle a gardé ça en secret, au fond d'elle. Mais lui, en tout cas, elle ne l'aime pas, quoi. Enfin, voilà. Hein. Quoi qu'il fasse. Alors, raconte-moi ton histoire.
Oui, alors, mon histoire est un petit peu plus compliquée. En fait, moi, s'il y a des auditrices qui m'entendent et qu'ils ont vécu la même chose, parce qu'en fait, moi, j'ai connu un homme...
Oui.
Et je suis tombée amoureuse de lui, on s'est fréquenté, et il s'est avéré que par la suite, qu'en fait, cet homme est accro aux jeux, les jeux d'argent.
Oh là là.
Et en fait, les gens qui sont des joueurs boivent. Enfin, il y a l'alcool qui va avec.
Ah oui. Une addiction, on appelle une autre.
Voilà, il y a une addiction au jeu et l'addiction au jeu fait que l'alcool vient avec parce qu'il y a une souffrance et ils ont besoin ils boivent pour
atténuer et puis pour calmer
oublier leur addiction,
la souffrance,
etc.
Oui.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'ai essayé de l'aider à sortir de cette addiction. J'ai été jusqu'à j'ai essayé de gérer son argent, j'ai été même jusqu'à lui prendre rendez-vous dans un hôpital chez un addictologue, spécialiste des addictions.
C'est bien.
Le jour du rendez-vous, il a esquivé, il est arrivé en retard. Enfin, j'ai senti qu'il avait franchement pas envie d'y aller. Comme il me disait de temps en temps qu'il était bien comme il était, Donc j'ai décidé d'arrêter la relation. Sauf que moi, entre le moment où je suis tombée amoureuse de lui et le moment où j'ai découvert sa vraie personnalité, il y a des sentiments qui ont grandi.
Ah oui.
Je suis mm-hmm. même encore aujourd'hui, je pense encore être amoureuse de lui parce que il y a aucun autre homme qui m'attire. Ouais. Tous les autres hommes me paraissent fades à côté de lui, donc pour moi je suis encore amoureuse de lui. Et on a gardé contact. J'ai décidé on est juste amis en fait. Enfin, il m'appelle parce que le jeu isole. Le jeu, il faut savoir
c'est vrai.
Que le jeu isole. Donc c'est des gens qui s'endettent, qui s'isolent. Les gens ne veulent plus les voir de peur qu'ils soient taxés. Donc ils s'isolent. Ils sont.
Puis ils ont honte. Surtout.
Ils ont honte. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ils s'aiment pas. Du coup, j'ai pas voulu complètement couper avec lui parce que il y a quand même une souffrance qui est là. Donc, il peut m'appeler quand il a besoin de parler, quand il m'appelle. Mais en fait, le fait qu'on garde une relation, ça entretient aussi, ça entretient le sentiment. Et voilà, aujourd'hui, je sais pas trop quoi faire. Je sais pas s'il faut complètement couper, passer à autre chose. Et lui, il a retrouvé personne, mais en même temps, dans sa situation, les relations ne durent pas. Mmh. Parce que un homme comme ça, ça fait peur. Ça fait
bien
peur
sûr,
à une femme.
Ah ben oui.
Parce que voilà, il y a pas d'argent, il y a rien qui se construit, quoi.
Ben oui.
Et donc lui, il a. Je sens qu'il ben je sens quand même, enfin il pourrait, c'est un homme, il est très beau, il est très séduisant et il aurait aucune peine à trouver des femmes, donc il a rien construit. Mmh. Et, il a pas retrouvé de relations sérieuses après moi et moi non plus. J'ai connu personne après lui. Mmh. Voilà, aujourd'hui je sais pas quoi, j'aimerais avoir ton avis et peut-être des témoignages d'autres personnes qui vivent ça quoi. J'aurais voulu ne jamais le connaître en fait. Vraiment, j'aurais jamais voulu ne jamais le connaître parce que si j'avais su peut-être tout de suite qu'il était addict qu'il était, parce que lui il a suffisamment été malin. Oui, c'est de la malice, hein, pour le cacher et pour me le faire savoir quand il a senti que j'étais accro, quoi. Enfin, que j'étais accrochée à lui, quoi, et que peut-être je pourrais plus le laisser tomber.
Tu disais tout à l'heure que tu l'as accompagné chez un médecin, chez un addictologue.
Non, je l'ai pas accompagné.
En fait, psychothérapeute. Oui.
J'ai pris rendez-vous et le jour où je suis venue le chercher, ouais. Il a pas voulu aller.
Ah bah oui.
Il n'a pas voulu aller et moi après j'ai compris que d'un côté il en souffre et d'un autre côté il aime bien aussi quoi, et c'est pervers en fait, hein. C'est pervers parce que ce sont des personnes qui souffrent, mais
c'est comme une drogue, hein, c'est comme les
toxiques. Ah oui, ils savent que ça les fait souffrir mais ils y retournent, ils aiment ça. Donc les femmes qui sont avec ce genre de personnes, moi j'ai la chance d'être indépendante. On n'a pas vécu ensemble. J'ai mon travail, je dépends pas de lui, je suis pas mariée, ouais. Heureusement. Mais j'ai de la chance de ne pas être de pas.
Vous êtes resté combien?
Qu'on n'ait pas vécu ensemble. Quoi.
D'accord. Vous êtes resté combien de temps ensemble?
3 ans.
Et vous êtes séparés au bout de 3 ans?
3 ans, on vivait pas ensemble. 3 ans, on se voyait, lui.
Était... Mais vous étiez mariés ou pas?
Non, 3 ans.
Je pensais que vous étiez mariés. Oui, d'accord.
Non, j'étais pas mariée. En fait, le 3 ans, lui, il était chez lui, moi, j'étais chez moi.
Oh,
on se fréquentait, mais je restais chez lui, je passais du temps avec lui, on faisait des choses ensemble, mais après, quand le jeu a pris une trop grande importance, quand son addiction a pris une trop grande importance, ça m'a fait peur et j'ai pris mes distances petit à petit Et en fait, j'ai pas voulu. J'ai toujours pensé que peut-être qu'il changerait. Je voulais l'aider. J'ai pris rendez-vous chez l'addictologue, etc. J'ai pris son argent pour lui donner moi son argent de poche.
Oui, oui, bah, carrément, sous tutelle.
Le problème, c'est que quand je prenais son argent, il allait emprunter ailleurs.
Oui.
Donc ça ne servait à rien.
Oui, parce que c'est plus facile.
Parce qu'il lui fallait son argent pour jouer, de toute façon.
Oui.
Donc après, j'ai arrêté parce que si c'est pour que je garde son argent et qu'il aille s'endetter,
c'est dommage
pas...
quand même qu'il n'ait pas été jusqu'au bout chez ce médecin. Ouais. C'est dommage, ouais, parce que ça aurait pu l'aider, parce que c'est, il y a quelque chose à faire là. Et,
c'est ça. C'est
et ça peut et donner de bons résultats parfois, mais il faut qu'il et fasse sa démarche lui-même. Oui.
Ouais. Et quand il n'a pas voulu aller chez le médecin, du coup, ça m'a fait douter aussi. J'ai pensé qu'il n'était pas prêt à faire des efforts. Alors, est-ce qu'il m'aimait vraiment par intérêt.
Quand tu es partie comme ça, tu as claqué la porte. Il n'a pas essayé de te rattraper en te promettant que, ou en acceptant au moins d'aller voir un médecin, plutôt ça que de te perdre. Mais ça, c'est ça, tu vois, c'est vraiment une addiction. Hein. C'est vraiment comme.
Ouais, c'est une grosse addiction.
C'est comme la toxicomanie, tu vois. Parce que c'est,
non, mais c'est terrible.
Les gens ne savent pas à quel point cette addiction, elle est. C'est comme l'alcoolisme, la drogue, c'est exactement la même chose. Le jeu, c'est pareil. Et ils pourraient, on leur dit, on est en train d'enterrer votre maman, etc. Eh ben, il aurait du mal à s'arracher à son jeu. Tellement il est. Oui, c'est. Je sais que c'est quelque chose de.
En fait, il fallait l'accepter tel qu'il était. Ou lui n'allait pas faire. Il fallait l'accepter tel qu'il était, quoi.
Ben oui.
Apprendre ou aller.
C'est comme un drogué, hein, tu veux. Qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est être traité, être suivi par un psychologue ou un addictologue, justement, qui sont là, qui font de très bons...
Mais encore faut-il qu'il...
donne de très bons résultats, oui.
Mais pas cette volonté.
Il n'a pas cette volonté. Alors, ça fait combien de temps, là, vous êtes séparés?
Bah, en fait, on n'est pas tout à fait séparés, parce qu'on garde... Il y a un contact téléphonique, on ne se voit pas comme avant, enfin, on se voit une fois par mois, enfin...
Bref, ça lui suffit, ça lui convient? Ben oui.
Lui,
il comble ça avec les jeux.
Et en fait, lui, il passe beaucoup de temps à jouer, donc...
C'est fou. C'est quoi comme jeu? Qu'est-ce qu'il joue, lui? Le casino?
C'est les jeux de... C'est le PMU, tout ça, les jeux de
chevaux. Grattage, les chevaux.
Les jeux de chevaux, l'argent.
Les courses.
Les courses, c'est ça. C'est les courses et tout ça. Il travaille, mais tout ça paye par là-dedans. Et quand il a claqué son argent, il va encore demander de l'argent.
C'est ça.
Ben, c'est terrible, hein, les gens qui n'ont pas vécu ça, ils ne peuvent, peuvent pas comprendre. Hein, ça pourrit la vie, quoi. Il n'y a que ça tourne autour de ça, il n'y a plus que ça, c'est des crises.
Oui, complètement. Ils se mettent dans des situations graves, hein, parce qu'il y en a qui hypothèquent leur maison, qui vendent leur voiture.
Dieu merci, nous, on n'était pas mariés, on n'avait pas de biens ou des choses en commun, donc j'ai pu facilement me séparer de lui.
Heureusement,
mais je n'aurais pas voulu me marier avec lui,
c'est
dommage. Enfin, j'ai trouvé ça triste parce que il y avait quand même on s'aimait quand même, quoi. Mais ça a gâché.
C'est pas possible. Moi, je te comprends.
Non, c'est
pas,
ouais.
Je te comprends parce que tu n'aurais pas pu supporter longtemps cette situation. Voilà.
Et puis les femmes qui. Enfin, moi, je plains les femmes qui. Je sais qu'il y a des femmes qui ont des enfants, qui ont des maris qui jouent et l'argent du ménage et tout ça part dans le jeu c'est très je l'ai vécu un peu de loin, je l'ai pas tellement vécu de près parce qu'on vivait pas ensemble mais je me suis mise dans la situation de ces femmes là, j'ai dit waouh, c'est lourd, hein. Franchement c'est du lourd, hein. C'est comme tu l'as dit, c'est de la toxicomanie, quoi.
Ça
tourne autour de ça, quoi.
Ça
devient une obsession. Il faut trouver l'argent, il faut aller jouer, il faut regarder les chevaux sur internet, sur le portable, à quelle heure est la course. Il plaque tout pour aller jouer sa course à telle heure, quoi.
Oui, et parce
peu
que
importe
c'est...
Et pourtant, au début, pourtant, dans les tout débuts d'une relation, on est vachement amoureux, on a envie d'être avec l'être aimé, on avait du temps. Ben, même pas, il n'y a même pas ça, quoi. C'est les chevaux qui.
C'est ça.
Il
n'y
a même pas ça. Il faut aller jouer.
Sa seule motivation, c'est le jeu, voilà, dans la vie. Ouais. Et rien d'autre. Oui, ben. C'est une drogue. Donc.
C'est une drogue.
Eh ben, dis donc, ma pauvre. Bon, voilà, Fatima, ben écoute, je te souhaite beaucoup de courage.
Hein, ouais, merci. Okay. Non, mais bon, ça va.
J'espère que ça va s'arranger.
Mais je voulais. Enfin, pour toi, c'est pas la peine d'espérer.
Fatima, je te reprends juste après parce qu'on a une pause là tout de suite. À tout de suite.
D'accord, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. Peur FM, 22h minuit, Confidence avec Vanessa.
Confidence jusqu'à minuit au 01 53 48 3000. Merci d'avoir attendu et d'avoir été patiente, surtout Fatima, qui nous appelle de Sevran.
Ouais, je t'en prie. En fait, voilà, je vais pas capter toute l'antenne toute la soirée. Mais
alors, qu'est-ce que tu décides maintenant, c'est
comme
ça
qu'on
voudrait savoir.
Je sais que tu es assez psychologue et de bons conseils, parce que je t'écoute régulièrement. je voulais avoir ton avis sur la situation. Et est-ce que tu penses
Il a quel âge ?
Je peux te tutoyer ?
Oui.
Oui, merci. Est-ce que tu Il a 48 ans.
D'accord.
Est-ce que tu penses que je peux continuer à espérer peut-être qu'il ait le déclic, qu'il ait un déclic et qu'il arrête, mm-hmm. ou est-ce qu'il faut que je passe à autre chose?
Alors je vais te dire.
Oui,
pense,
dis-moi
hein.
franchement.
Ah hein, oui, non mais attends.
Je suis forte, hein, je peux. Voilà.
Je sais. Tu as quel âge aujourd'hui?
J'ai 41 ans.
D'accord. Bon.
Ouais, je suis pas.
Cet homme a. Si tu es jeune, 41 ans, c'est jeune aujourd'hui.
Oui, oui.
Donc il a 48 ans, il va bientôt 50 ans. Pour rien au monde, cette addiction, eh bien, il a l'intention de s'en défaire, hein, ou tout du moins de se soigner, puisque tu lui as donné à maintes reprises la possibilité de l'aider, hein, tu lui as tendu la main, etc. Parce qu'il n'y a rien d'autre qu'un médecin pour venir à bout de ce fléau, c'est un véritable fléau. Ouais. Alors moi je vais te dire une chose, par expérience, j'en ai entendu dans ma vie.
Oui, je tousse. J'en doute pas.
Oui, alors j'en ai entendu des histoires comme ça, des gens qui jouent, tu sais, des hommes qui jouent les courses, les chevaux, tout ça. Alors, c'est très 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 rare que les gens s'en sortent, et surtout s'ils décident pas de s'en sortir. Alors, j'ai juste envie de te dire, Fatima, c'est bête ce que je vais dire, mais moi je pense à toi. Fuis.
Ouais. Bah, en fait, tu me confortes. Je te demandais ton conseil, mais je pensais déjà. On réfléchit. Mais tu me confortes en fait. J'ai raison de croire ce que je crois.
Ah oui. Parce que ce qui t'attend, ce sera que... L'amour, tu vas l'oublier tout de suite. Hein. Parce que là, l'amour, t'es amoureuse au début. Mais avec cette maladie, c'est une maladie, c'est une pathologie. Hein. Ouais. C'est pas possible de tenir la route. Hein, parce que tu as des...
Ah oui, ça bouffe l'énergie.
Mais il y a des joueurs qui vendent leurs meubles, qui ont vendu leur maison, qui ont endetté leur maison à l'insu de leur femme. Qui ont hypothéqué ce qu'ils possédaient, ils ont mis toute leur famille en danger, pas eux-mêmes seulement, toute la famille avec les enfants. C'est très grave, vraiment, c'est un fléau terrible. À moins de faire, d'en être conscient et de pas vouloir faire souffrir l'autre, mais ils se rendent même pas compte parce que pour la plupart, ils sont aveuglés, ils mettent en danger les femmes et enfants, tout le monde, père, mère, tout le monde. Ils se rendent pas compte, ils sont aveuglés par leur vice. C'est un vice.
Ouais, ils font souffrir les autres.
Moi, je te dis une chose, je n'ai encore, de toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, et je me souviens en étant adolescente de cas comme le tien, de gens qu'on connaît autour de soi, jusqu'à la mort, la personne, elle restera joueuse. Jusqu'à la mort. Et qui ont entraîné avec eux beaucoup de dégâts dans la famille.
Ouais.
Alors donc, laisse tomber. Moi, je te dis une chose, fuis, parce que tu ne pourras rien faire, c'est pas possible.
Ouais. On croit que que la personne nous aime et qu'elle va faire des efforts, oui, etc. Mais c'est faux, c'est pas vrai.
Ah ben non, il fera rien du tout. C'est dans son ADN. 48 ans, il veut même pas entendre parler de s'en sortir, de médecin, de médecine ou de comment dire, d'aller voir un addictologue ou un médecin. Il veut pas entendre parler de ça, d'accord ? Ouais. Donc il veut pas d'aide.
Ouais.
C'est pas la peine. Je vais te dire une chose. Entre toi et le jeu, il va choisir le jeu. Hein, je te le dis tout de suite.
Bah ouais, il a déjà choisi quelque part hein, en refusant de se faire soigner.
Bah oui.
Ouais,
ben oui,
c'est ça.
Ben oui. Il a aucun projet de vie avec toi.
C'est ça.
Son seul projet, c'est demain, quel cheval va courir, lequel qui va gagner, lequel qui est censé être le gagnant et où il va trouver l'argent, etc. Ses seuls projets sont des projets au quotidien, comme ça, éphémères, qui passent au fur et à mesure et dans un temps très proche, parce qu'il n'a pas de projet lointain. Il se projette pas dans la vie.
Bah,
il a jamais été marié, il a jamais eu d'enfant.
Il a été marié, mais non, il a pas eu d'enfant. Mais sa femme, pareil. Après, ça a pas fonctionné avec sa femme à cause de ça. Donc, voilà.
Ça n'ira jamais avec personne, c'est pas possible.
Ouais.
Non.
Mais bon, ils sont très malins pour le cacher au départ, quoi.
Oui, parce qu'ils ont honte.
Ouais, c'est
parce qu'ils ont honte de ça. Tu comprends, c'est.
Mais il y a de la manipulation. Voilà. Un joueur est un manipulateur. Hein. Attention, il faut le savoir aussi.
Ah bah oui, mais c'est comme un alcoolique. Un alcoolique, il va te dire « je ne bois pas ». Sauf qu'il dès le réveil le matin, il a bu un demi-litre ou un litre de je ne sais quoi comme alcool, tu vois. Et à la fin de la journée, il en a bu peut-être 5, 6, 7, tu comprends. Et quand tu lui dis, il te dit « non, je ne suis pas alcoolique ». Et oui, en apparence... Parfois, c'est trompeur. Pourquoi ? Parce qu'ils tiennent l'alcool, ces gens-là. Ils ont tellement... leur corps est tellement imbibé, alors qu'une personne normale qui ne boit pas... Tu vois, tu prends un homme qui n'a pas l'habitude de boire, s'il va boire, je sais pas, un demi-verre, et ben déjà, là, il a la tête qui tourne parce qu'il n'a pas l'habitude, tu vois. Alors qu'un alcoolique, il va tenir la route, comme on dit. Eh bien, un joueur, c'est pareil. Un joueur, c'est pareil. Il va savoir masquer les gens... Ne pourront pas deviner son vice. Hein. Pour moi, c'est un vice. Ça va au-delà d'une addiction parce que c'est terrible. Mais il va pouvoir savoir masquer parce qu'à force de jouer, parce qu'il joue aussi avec la tête des autres. Hein. Et pour masquer, parce qu'il faut qu'il leur soutire de l'argent hein, aux proches. Hein. Il va mentir. Hein, il va dire j'en ai besoin pour acheter les médicaments ou je ne sais quoi. Tu vois.
Oui, c'est ça. Il m'a déjà menti plusieurs fois.
Ben oui.
J'ai pardonné. Après, je vais arrêter, puis non, c'est pas vrai.
Non, il arrêtera jamais. Moi, je te dis une chose.
Ouais.
Fuis, comme on dit, le harbat
selek.
Ouais. Fuis.
Ouais.
Parce que tu n'as rien à gagner dans cette histoire. C'est une vie de douleur et de souffrance.
Ah ouais.
Vraiment.
Ouais.
Le gars, il va sur ses 50 ans, il cherche pas à se corriger, à aller voir un médecin, parce qu'il y a que ça. Il cherche pas, non, c'est comme ça jusqu'au bout, hein.
Tu me confortes. Je te remercie, Vanessa.
Je t'en prie, ma chérie. Voilà. Avance, tu as 41 ans, c'est jeune, mais c'est maintenant qu'il faut que tu songes à faire quelque chose de ta vie. Mmh. Alors, ne perds pas ton temps. D'accord ?
D'accord. Merci, Vanessa.
Je t'embrasse très fort. Merci. À bientôt, Fatima.
Merci. Au revoir.
Au revoir, ma chérie. Au revoir. Le jeu, c'est terrible parce que les gens ne savent pas trop jouer. Peut-être que. Non. C'est une drogue, le jeu. C'est. Vous prenez un alcoolique, un drogué et un joueur. C'est la même chose. Ce sont trois identiques fléaux. Et qui bousillent pas une vie. Parce que s'ils bousillent que leur vie, grand bien leur fasse, tant pis pour eux, hein, ils ont choisi leur route. Mais en même temps, ils sont là pour détruire des vies. La vie de leurs proches. C'est terrible. Combien de joueurs menacent leur mère, leur propre mère, des hommes, des gaillards, hein, qui menacent leur mère ou qui font du chantage et tout ce que vous voulez pour soutirer en mentant parce que ils sont les champions du mensonge, hein. Bah oui, parce qu'il faut trouver l'argent, hein. Donc ils vont trouver tous les subterfuges et tous les pour soutirer de l'argent même à leur propre mère, vous imaginez. Non, un joueur, c'est terrible. Voilà, 01 53 48 3000. Alors, on a Sofiane qui nous appelle de Aulnay-sous-Bois. Bonsoir, Sofiane.
Bonsoir.
Voilà. Bienvenue, Sofiane.
Merci, c'est gentil de m'accueillir à l'antenne. Ça fait longtemps que j'étais intervenu déjà à l'époque, en fait, il y a quelques années déjà.
Oui.
Suite à ce qui s'était passé, donc c'était en des circonstances dramatiques par rapport à ce qui s'était passé le 13 novembre, je crois. Et en fait, 13 novembre 2015, si je ne m'abuse.
Ah oui,
Et en fait...
Les attentats, c'est ça?
Exactement, oui, voilà, tout à fait. Oui. Exactement. Et en fait, je voulais intervenir parce que j'écoute de temps en temps. Bon, déjà, j'apprécie l'émission et ta liberté de ton, même si je suis pas tout le temps d'accord. Mm-hmm. Et en fait, j'ai écouté l'émission un petit peu hier par bribes et j'écoute un petit peu aujourd'hui. Moi, j'aimerais apporter mon analyse personnelle et en même temps qui est basée sur un vécu, tu vois, par rapport à toutes ces questions-là, du célibat, du couple, et etc., etc. Et mm-hmm. notamment, tu vois, chez nous, les Maghrébins, de manière générale, tu vois. Mm-hmm. En fait, moi, ce que je constate, si tu veux, c'est que nous, les Maghrébins, Maghrébins au sens large, en fait, on est sans cesse dans la contradiction entre ce que nous sommes et l'endroit où on vit. Je m'explique. Tu veux, nous, en fait, on vit en Europe, dans une société où il y a la liberté, où, si tu veux, il y a en France où les hommes fréquentent les femmes, où il y a la liberté. Et c'est très, très, très bien qu'il y ait cette liberté-là, pardon. Sauf que nous, en fait, des petits, et c'est encore plus accentué chez les jeunes générations avec, si tu veux, un certain retour à un puritanisme religieux venu d'un autre temps. En fait, on nous apprend quoi? On nous apprend que la femme, elle est interdite à l'autre et que vice-versa, l'homme, il est interdit à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui se passe forcément? Il se passe qu'en fait, on fait du mariage une obsession. Et donc on va idéaliser la chose parce qu'on va pas fréquenter, donc on va idéaliser l'homme, on va idéaliser la femme. Et forcément, quand tu idéalises, tu es tout le temps déçu. Tu peux pas être content parce que tu as tellement un idéal qui est grand parce que tu ne connais pas entre guillemets, bah que forcément tu ne peux être que déçu. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des générations de frustrés et malheureusement en ce qui concerne les hommes, de misogynie et aussi de haine vis-à-vis de l'homme parce qu'on sera toujours insatisfait puisqu'on a idéalisé la chose. Mm-hmm. Et en fait moi je me rends compte, si tu veux, que comment te dire? Moi, je vois ça avec beaucoup de recul parce que si tu veux, je suis un peu passé par là, tu vois.
D'accord.
C'est-à-dire que moi, dans ma prune jeunesse, en fait, j'ai rapidement, si tu veux, vécu un embrigadement un peu religieux, si tu veux, avec l'islam des banlieues, qui est très particulier parce que pour moi, c'est une vulgate d'islam qui n'a rien à voir avec les. Enfin, je vais pas dire qu'il n'a rien à voir avec l'islam, c'est un peu redondant, j'aime pas cette expression, mais on se comprend, quoi. Mm-hmm. En fait, si tu veux, qui est, si tu veux, plus une forme de contestation contre ce qui se passe. Donc, on est contre les femmes, on est contre tout. Et au final, en fait, moi, je me rends compte qu'avec toutes ces histoires-là, bah, moi, les plus belles années de ma vie, en fait, enfin, on s'entend, tu vois, mais j'ai l'impression que je les ai perdues, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que.
D'accord, oui.
Tu vois, les années lycée, les années fac, où t'es censé, voilà, rigoler, si tu vois ce que je veux dire, fréquenter, voyager. Mmh. Et ben en fait moi je peux pas. Pourquoi? Parce que haram, parce qu'il faut pas approcher la femme, parce que la femme t'es interdite, t'as pas le droit de parler avec, parce que non mais c'est la,
mais c'est vrai. Ah ouais, non mais je t'entends et c'est très bien comment tu expliques. Oui,
tu vois, la femme elle t'est interdite, tu as pas le droit de parler avec elle, il faut que tu te maries jeune, il faut que tu fasses beaucoup d'enfants parce que le prophète t'a dit qu'il faut que la communauté soit la plus nombreuse. Donc tu prends une gilbabeuse de sorte que t'as jamais vue, tu te maries avec, tu fais des gosses vite fait, tu voyages pas avec, tu fais rien. Et c'est ça le problème, en fait. Et je trouve que dans les jeunes générations ça s'accentue de plus en plus, cette obsession là. Ouais. Folle du mariage. Et moi, si tu veux, je t'en parle, j'ai un peu le cœur lourd parce que je suis passé par là, tu vois.
Oui.
Je me rends compte à quel point, tu vois, moi, finalement, je trouve, excuse-moi, tu vois, mais je me suis fait, en fait, en quelque sorte, arnaquer, tu vois. C'est-à-dire qu'on nous vend, si tu veux, une société qui est, si tu veux, qui est, tu sais, le monde idéal qui a
c'est
le monde des bisounours.
Ouais. Les légendes.
Voilà, où on sort de la mosquée, on va trouver la femme parfaite, l'homme parfait, on va fréquenter personne, et puis on va se voir, tout va se faire que. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça. Le problème, c'est qu'on est rattrapé par le réel. Et le réel nous rattrape en permanence. Et quand j'écoutais les gens hier discuter, et je sentais, si tu veux, la frustration, moi, ça me touche parce que je comprends ce qu'ils veulent dire. Je comprends. Le problème, c'est que là, on veut faire rentrer des carrés dans des cercles. On vit en Europe, il y a la liberté, mais non. Il faut que la femme soit comme ça, que l'homme soit comme ça, et ça bouge pas. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on casse. Je suis désolé. Pourtant, je suis croyant, mais moi, pourquoi il faut qu'on casse cette obsession du mariage? On est en Europe, faut qu'on s'adapte à la réalité européenne. Mmh. C'est tout. Et moi, je le dis d'autant plus que, voilà, moi, ça me touche parce que, voilà, je me rends compte à quel point, en fait, c'est en fait, on se met des barrières et c'est ça qui nous empêche de vivre.
D'ailleurs, il y a une remise en question et puis il y a de la réflexion et c'est très bien parce que, tu as quel âge, Sofiane?
J'ai 25 ans.
25 ans. Ah oh, oui, tu es jeune, dis donc. Parce que tu dis dans ma prime jeunesse, mais tu as vécu très vite, quoi. Enfin, beaucoup de choses, beaucoup d'événements, et ça a été fulgurant. Mais et puis en même temps, quelle maturité, j'ai envie de dire, à 25 ans, d'avoir pris conscience aussitôt, hein, de tout ça, parce que tu me parles d'histoire. Enfin, j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies. Et tu es trop jeune pour avoir eu plusieurs vies. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette remise en question et cette réflexion, surtout, d'où c'est magnifique, quoi. Comment, c'est pas un beau matin, tu t'es réveillé. C'est quoi ton parcours? C'est quoi ton histoire? C'est à quel moment? Est-ce que tu as eu quelque chose de très fort? Est-ce que tu as eu très peur? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
En fait, si tu veux, je suis un peu... Je m'excuse, hein.
Pas de soucis.
Si tu veux, en fait, comment t'expliquer ça? À un moment donné, tu te réveilles et tu prends conscience, si tu veux. Par où commencer, mais quand je te dis les plus belles années de ma vie, etc., c'est pour t'expliquer un petit peu, pour que tu comprennes.
Oui.
Moi, je pense que je suis quelqu'un qui, quand il vit les choses, je les vis tellement intensément, je mets tellement de cœur dans ce que je fais, qu'en fait, si tu veux, je vis vraiment les choses intensément. Donc, en fait, si tu veux, le mal dans le bien, c'est que malgré tout ça, en fait, ça m'a permis d'acquérir une certaine maturité, un certain recul qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je peux regarder ça en face et me remettre en question. Et en fait, si tu veux, qu'est-ce qui a fait que, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un reportage sur les expériences de mort imminente.
D'accord. Ah, c'est magnifique. Oui.
Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans ce reportage, il y a eu une... J'ai écouté les scientifiques parler. Le reportage, j'encourage les gens à aller le regarder, s'appelle... La mort existe-t-elle? Je crois quelque chose comme ça. Et en fait, j'écoutais des neuroscientifiques qui disaient, en fait, que la conscience, indépendamment de la matière, d'accord?
Oui.
Parce que tu sais, en fait, les scientifiques, il y a une des écoles dans les scientifiques, c'est très rationaliste, tu vois.
Bien sûr.
Et ils disaient, en fait, que pour le coup, ils reconnaissaient que la conscience, indépendamment de la matière, elle était capable de créer des choses. Et c'est d'ailleurs souvent le cas quand on entend certaines expressions. Par exemple, il a provoqué la réussite. Ou, tu vois, des choses comme ça.
Ben oui.
Ils disent que parfois, t'as des gens qui sont tellement, qui perdent un proche, ils ont tellement le souvenir vivace de ce proche, qu'ils sont capables, sur des instruments comme la télévision, de créer leur image. Et ça, il y a des scientifiques qui te disent que oui, c'est la conscience qui, indépendamment de la matière, est capable de créer. Suite à ça, moi, je me suis interrogé par rapport à tout ce qui était neuroscientifique.
Ben oui.
D'accord? Et en fait, ce qu'ils expliquent, les neuroscientifiques, et c'est quelque chose qu'on a aussi, si tu veux, dans le corpus littéraire religieux, dans toutes les religions d'ailleurs, mais en l'occurrence chez nous, dans notre culture, mais qui nous est caché, en fait, on a le côté, si tu veux, le plus appelle le plus, l'optimisme appelle l'optimisme. Et le problème, moi, je me suis rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai eu des échecs...
La loi d'attraction, oui, c'est ça.
Exactement ça.
Oui.
Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais eu des échecs dans ma vie, c'est parce que nous, dans l'islam qu'on nous prône en France, dans le discours, même pas forcément musulman, mais le discours qu'on a dans les banlieues majoritaires, c'est un discours qui est constamment négatif. C'est un discours qui est constamment dans la norme, qui est constamment dans... On ne te dit pas... Fais ci, fais ça. C'est ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, avec tous ces échecs-là, tu vois ce que je veux dire?
Complètement.
Il y a déjà une raison quelque part. Moi, je sais que, par exemple, ça m'est arrivé de parler avec des femmes, par exemple, etc. Ben et à chaque fois, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me suis interrogé pourquoi. Et en fait, c'est tout ce que je t'ai dit avant. Et du coup, ça a occasionné ce que je t'ai dit sur
le conditionnement. Mais c'est bien que tu aies dépassé toutes ces barrières. Enfin, à 25 ans déjà, je trouve ça formidable parce que tu as fait un chemin et ça c'est formidable. Et quand tu me parles justement de cette neuroscience, eh bien il y a un livre justement, c'est la conscience intuitive extra-neuronale du docteur. Tout à l'heure tu parlais des médecins, du docteur Charbonnier, hein, donc Jean-Jacques Charbonnier. Et lui justement, c'est beaucoup 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 penché des EMI, hein, les morts. Imminente, hein, les morts, la mort qui est d'ailleurs il l'explique très très bien. Lui, il a fait beaucoup de livres, beaucoup de reportages. Et alors, s'il y a des personnes qui voudraient justement voir une de ses conférences ou autres, ben vous allez sur internet, vous tapez Jean-Jacques Charbonnier. Il est médecin, il est médecin anesthésiste. Et c'est pour ça qu'il s'est penché, parce qu'il a eu tellement, tellement, tellement de cas de personnes au réveil qui racontaient tous les mêmes choses avec des croyances différentes, etc. Pourtant, hein, dans la vie normale, et qui racontaient à peu près presque le même scénario de leur expérience. Je te laisse continuer. C'est intéressant ce que tu dis. Sofiane. Alors, donc, comment tu es venue à t'intéresser justement à ces EMI, enfin, à ces expériences de mort imminente?
En fait, si tu veux, c'est assez récent. En fait, ce qui s'est passé, tu vois, c'est que j'ai enchaîné en fait deux déceptions consécutives, tu vois. Et pareil, en étant sur le même paradigme, tu sais, de l'idéalisation et du côté obsession du mariage, voilà, pour en revenir, si tu veux, à ce que je t'ai dit avant, tu vois.
Oui.
Et en fait, ces deux déceptions-là, si tu préfères, coup sur coup, ont fait qu'à un moment donné, tu vois, bah, je me suis interrogé, tu vois, et même ma maman, là, qui doit sans doute écouter, tu vois. On s'est pris un peu le bec et ma mère me dit de me dire, tu vois, des vérités, tu vois, de me dire, oui, mais tu sais, quand t'étais plus jeune, tu t'interdisais, tu vois, de parler aux femmes, tu t'interdisais ceci, tu t'interdisais cela. Donc, à un moment donné, tu vois, c'est. Et moi, c'est vrai que, forcément, au fond de moi, je suis pas fou, je me dis que quand il se passe quelque chose, voilà, on a forcément une part de responsabilité là-dedans. Et il s'avère, en fait, que moi, tu vois, à la base, il y avait le reportage en question sur existe-t-il la mort, pour répondre à ta question. La mort existe-t-elle, pardon. En fait, moi, je l'ai regardé juste, tu vois, à titre de curiosité, tu vois.
Oui, oui.
Et vraiment à titre, voilà, parce que comme voilà, je suis musulman, donc c'est un, on a tous, si tu veux, en fonction de notre philosophie, de notre religion, ou de nos religions, de nos croyances, une vision de la mort, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, par curiosité, je vais aller regarder ça, tu vois. Et en fait, bah, j'ai regardé ce reportage, où en fait, t'avais des gens de toute confession, de tout âge, et d'ailleurs beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'en fait, c'est un récit des risques qui sont forts, parce que les enfants, par définition, ne peuvent pas, tu vois, mentir. Eux, ils dessinent ce qu'ils ont vu, tu vois.
Bah écoute, je te dirai quelque chose juste après. Oui, vas-y.
Et en fait, par rapport à tout ça, j'ai regardé, et donc du coup, ça parlait des neurosciences dans le truc, et des scientifiques vraiment de très très haut niveau, qui expliquaient ce que c'était que les neurosciences, et comment en fait, la conscience eux-mêmes n'étaient pas capables de l'exprimer. Et d'ailleurs, il te parlait de spiritualité, parce qu'il te dit que la spiritualité, on l'agglutine tout le temps à la religion, mais pas forcément, pas dans une spiritualité, tu vois.
Ah non, non, ça n'a rien à voir. On peut être dans la spiritualité et pas du tout dans la religion. Hein.
Totalement.
Religion, religiosité et spiritualité, c'est. On va dire c'est deux choses un peu.
Voilà.
Pas parallèles, mais voilà, exactement. Oui, oui.
Mais on peut avoir une spiritualité, par exemple en France, une spiritualité laïque, c'est possible aussi, tu vois, de
donner un sens à sa vie. Ah, complètement.
Tu vois. Et en fait, c'est ça que, et donc, je me suis intéressé à ça, tu vois.
Oui.
Et par rapport à ça, bah, après, ce que j'ai fait, j'ai cherché, et c'est vrai qu'après, et bah, la remise en question, elle s'est faite, tout de suite. Parce que c'est là que je me suis dit, mais comment est-ce qu'en fait, on peut avancer, chez nous, dans notre communauté, quand on a, si tu veux, un logiciel qui est constamment négatif, qui est constamment dans le normatif. Quand il n'y a jamais, si tu veux, de positif. Il n'y a jamais de positif. Et c'est ça, en fait, qui a fait que, du coup, bah, sur cette expérience de mort imminente-là, en fait, d'ailleurs, au demeurant, ça, c'est super passionnant.
Oui, oui.
Et ben, en fait, on arrive à la conscience. La conscience au cerveau. Donc, qui dit cerveau dit conscience. Enfin, ou plutôt le contraire. Et qui dit tout ça dit forcément, voilà, à un moment donné, comment est-ce qu'en fait ta conscience, elle peut créer, en fait. Tu peux, en fait, t'entourer de positivité et faire, en fait, si tu veux, et en fait, aller chercher ton bonheur. Moi, j'attends pas que le bonheur me tombe dessus. Je vais le chercher moi-même. C'est ça, en fait, le sens de la neuroscience et de la conscience. Et j'ai trouvé ça super puissant. C'est un truc, moi, je trouve que tout le monde devrait savoir, de libérer son cerveau. De libérer son cerveau de toutes les entraves qu'on s'est mises, de toutes les barrières psychologiques.
Alors, il faut juste, pour un petit peu comprendre comment un cerveau peut être saturé. Un disque dur sur un ordinateur, quand il est saturé, ben, on ne peut plus rien rajouter. Ne serait-ce que sur son smartphone. Hein, souvent, on vous met, parce qu'il y a trop de photos, trop de vidéos. Ben, le cerveau, c'est pareil.
Ouais, donc, exactement ça.
Ouais, mais c'est très bien comment tu l'expliques. Mais tout à l'heure tu disais oui, la mort imminente, etc.
Tout à fait.
Ces expériences vécues par des enfants. Oui. Alors moi je l'ai expliqué. Peut-être que tu n'étais pas là ce soir-là. Je l'ai raconté. Enfin, ces soirs-là, j'ai dû le dire 2-3 fois à l'antenne. C'est pour ça que je me suis intéressée énormément quand j'ai pris conscience énormément à ces expériences, à ces EMI, NDE en anglais, etc. J'en ai bouquiné, j'en ai vu des. Je suis allée voir le dernier film qui est sorti il y a 2-3 mois. Comment il s'appelle? Il y a un nom un peu compliqué. Donc et où on en parle et scientifiquement également, puisque beaucoup d'expérienceurs, on appelle ça, et des médecins et voilà, et des personnes aux quatre coins de la planète hein, qui ont eu cette expérience. Donc pas du tout la même culture, ni la même foi, ni rien du tout, et ils ramènent à peu près la même version. Ils sont tous apaisés après face à la mort et tout. Eh bien, moi, qui parle avec toi, eh bien, je l'ai vécu. En tant qu'enfant, je devais avoir 5 ans, 5 ans et demi. Hein, j'étais toute jeune quand je l'ai vécu. Et quand un enfant se réveille d'une telle expérience et qui se met à dire des choses seuls les adultes étaient au courant, et de parler de personnes qui sont décédées, pas être censé les avoir connues, laisse-moi dire que ça donne beaucoup de frissons aux adultes. Et ça, je l'ai vécu. D'où mon apaisement face à l'après-vie. Et c'est rare que je dise la mort, d'ailleurs, hein, parce que dans ma vie, en général, je dis pas la mort. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est vide de sens. C'est les humains qui ont inventé ce mot. La mort, pour moi, n'existe pas. C'est l'après-vie. On passe à une autre dimension, tout simplement. On vient d'une dimension pour repartir à une autre dimension, tout simplement. Voilà. Parce qu'il y a des dimensions. Il n'y a pas une ou deux dimensions. Il y a des dimensions, je pense. Alors, donc, c'est un passage. Voilà.
C'est magnifique, ouais. Bien sûr.
Ouais. Et il y a un film qui s'appelle Le Passage aussi, d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Et c'est hyper apaisant de le savoir. C'est hyper apaisant d'écouter les expérienceurs. C'est hyper apaisant d'écouter les scientifiques qui daignent enfin tendre l'oreille et écouter, parce que ils sont très rares, hein, les scientifiques, à accepter l'idée, même s'ils le savent au fond d'eux, hein. Moi, il m'est arrivé de j'ai des amis médecins, etc., ils disent: ah, mais ouvertement je ne le dirai pas, tu vois, c'est comme pour certains dons et tout. Ah, je le dirai pas ouvertement parce que les gens, tu vois. Alors les gens, ils se regardent en chien de faïence. En vérité, ils font les mêmes choses, hein, les gens. Mais sauf que personne ne parle avec personne, personne n'échange, mais l'autre, il pense que l'autre, il fait pas ce qu'il fait, et l'autre, et ça, c'est valable dans tous les domaines, hein, croyez-moi, hein.
Tout à fait.
Donc, c'est ça, les êtres humains. Donc, on vit dans une hypocrisie, on nage, mais dans un océan d'hypocrisie. Mais en réalité, oui, il y a beaucoup de scientifiques qui y croient, heureusement, et surtout aux États-Unis, parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit là-bas que nous n'avons pas ici en France. Ici en France, on est fermé, mais ouvertement, mais en vérité, tout le monde fait tout ce qu'il a à faire en cachette, mais vis-à-vis, mais voilà, quand c'est dans la visibilité, non, tout le monde veut se donner, genre, tu sais, collé fermé comme ça, on est tous des gens hyper carrés, alors qu'il n'en est rien. Vivent les Américains, vraiment les chercheurs, etc., les scientifiques, et d'ailleurs tous les reportages que j'ai pu voir, c'est souvent des médecins, des chercheurs et des scientifiques de renom qui, justement, eux, reconnaissent et parlent et ont fait des expériences sur les NDE. NDE, c'est en anglais EMI, quoi, en français.
C'est ça,
voilà.
C'est exactement ça.
Et heureusement qu'on a Jean-Jacques Charbonnier qui, lui, s'est penché sur la question. On l'a pris à un moment donné pour un farfelu, enfin voilà, parce que les gens ne... Tu vois, c'est terrible, les gens qui sont trop cartésiens, ils connaissent rien. La vérité n'existe pas.
Ouais.
La vérité n'existe pas de ce monde, de toute façon. Personne ne la détient. Mais tout le monde veut la connaître. Tu vois, quand tu as des personnes, par exemple, qui vont te dire, tiens, moi, je perçois des choses et un don, etc. Faut écouter les gens. Peut-être que oui. Peut-être que non. Parce que tout le monde n'a pas de don. Mais parmi la masse, il y en a qui disent vrai. Mais non. Ah non, ils se veulent cartésiens. C'est comme pour ceux qui te disent, ah non, moi, les voyants, les médiums, et tout. Mais je vais te dire une chose, de toi à moi. 99% de gens consultent, mais en vérité, ils le diront pas ouvertement. Voilà, c'est ça. Que ce soit des médecins, que ce soit des politiques, que ce soit mais vraiment à tous les niveaux. Mais moi, sais pourquoi je te dis ça. Mais ouvertement, ils font, tu vois, fine bouche devant la galerie. Et moi, c'est pour ça que j'ai mon franc-parler. Des fois, j'éclate et des fois, je dis des choses qui dépassent peut-être, voilà, ce que je pense. Mais c'est parce que c'est cette hypocrisie. J'ai envie de briser ce verre, tu vois. Voilà, ça m'énerve tellement parce que c'est tellement flagrant. Et quand tu sais des choses et que tu vois que c'est que du faux semblant, ben, ça t'agace, quoi, au bout d'un moment.
Eh bien, c'est exactement ça.
Voilà. Et toi, j'ai senti que tu as, à 25 ans, il y a énormément de maturité chez toi, mais tu as fait un sacré bond de géant en avant. Hein. T'es Gulliver, toi. Hein.
Ah bah écoute.
C'est vrai, hein. Comment alors, c'est ça, parce que tu as vécu des moments quand même de fermeture avec. Enfin, on a voulu t'enfermer avec ces extrémistes, etc. À un moment donné, hein. D'accord. Et est-ce que tu as réfléchi? Enfin, je sais que tu réfléchis beaucoup, toi. Mais est-ce que tu as été chercher de l'aide, ou est-ce que tu as rencontré des gens? Parce que c'est pas évident quand on est jeune.
Bah, en fait,
quand on est dans un milieu, surtout.
c'est vrai ce que tu dis. En fait, le truc, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas forcément accès, tu vois, à l'aide, etc. Tu vois, mais si tu veux, là où j'en souffre, en fait, c'est que je me rends compte à quel point, si tu veux, on t'inculque des choses et tu répètes bêtement des phrases toutes faites.
Ouais.
Tu sais, ils ont toujours réponse à tout, en fait. Donc, au final, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec un ami que j'ai rencontré, tu vois, il y a pas longtemps, suite à une intervention, tu vois, pareil, radio sur, qui a un peu vécu le même parcours, tu vois. Et ce qui fait qu'en s'asseyant, moi et lui, en fait, on a discuté, je crois qu'il a 31 ou 32. Et pareil, mais peut-être même encore plus que moi, tu vois, il m'a raconté, je me suis retrouvé en lui, on s'est retrouvés tous les deux. Et en fait, si tu veux, en s'échangeant tout ça, tu te poses des questions, tu te dis, il y a plein de choses, en fait, qu'on nous a dit. On s'est enfermé dans un discours où on nous a dit, en fait, tu sais, c'est le fameux discours du, pour caricaturer un petit peu, mais en gros, tu sais, c'est des mecs qui ont 35-40 piges, qui ont fait les 400 coups, et qui arrivent, et toi, t'as 16-17 ans, eux, ils sont rentrés dans le din, mais ils veulent que tu rentres dans le din, comme lui, c'est-à-dire que toi, t'as pas le droit de profiter de la vie, c'est mort, t'as vu, toi, ça y est, lui, il a la vérité, la vérité, elle est là, et en plus, on te dit quoi, parce qu'il faut bien comprendre le discours à l'époque, parce qu'il y a eu une évolution, tu vois, le discours à l'époque, c'est, on est, entre guillemets, humilié parce qu'on n'est pas assez dans la religion. Tu comprends le discours? Et si tu veux, en discutant avec mon ami, qui m'a dit, mais moi, je comprends pas, moi. Et je comprends pas, il m'a dit, tu sais, il y a un truc tout bête, il m'a dit, mais la personne qui est pas musulmane, qui vit dans une maison à crédit, qui a fait un enfant dans, qui est hors mariage, son gamin, il finit PDG, et il dit, le musulman qui fait le halal, qui fait 5 serres à la mosquée, les mecs, ils sont tous en prison, je comprends pas. Tu vois, des questionnements comme ça où, c'est vrai. Moi, t'as vu, je vis en banlieue. Excuse-moi, à un moment donné, qu'on ne me dise pas que par rapport à il y a 30 ans, où il y a plus d'islam visible aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la communauté maghrébine, elle s'élève aujourd'hui en France plus qu'il y a 30 ans? Je suis pas certain. Comme me disait mon ami il y a 30 ans, il te disait quoi? Il faisait pas tout un pataquès. Mais quand il te disait, Eib, Hachmo, ça voulait dire que Dieu n'aime pas ça, que le prophète n'aime pas ça. Mais il te disait pas, le hadith a dit, le verset a dit. Et pourtant, ils étaient 6000 fois plus respectueux qu'on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que du mytho. Tout le monde veut mettre la carotte à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire?
Et moi, c'est pas faux. Et quand tu parles de crédit, par exemple, eh bien, tu as tout à fait raison, puisque aujourd'hui, il faut vivre de son temps. On ne peut pas vivre, et de toute façon, le moindre petit centime d'euro que tu mets dans ton porte-monnaie ou dans ta poche, déjà, c'est du crédit. Parce que tout l'argent est fabriqué avec du crédit. Tout est crédit. Tu ne peux pas vivre avec... Les gens ont une interprétation aujourd'hui, en 2020... qu'on vit une autre réalité, qu'on peut pas vivre en marge de la société, à moins de prendre son baluchon et d'aller vivre dans le désert, et encore, tu risques de crever de soif. Mais tu peux pas vivre en dehors de la société, ça n'existe pas.
Exactement.
Et bien, chaque chose avec son époque, et c'est du grand n'importe quoi. Et ceux qui leur prêchent ça, ceux qui leur prêchent, qui leur disent crédit, on les voit sur YouTube, machin, etc., tout ça, halota. Mais eux-mêmes vivent avec crédit. Ils sont milliardaires, ils sont millionnaires pour la plupart, ils ont de l'argent, leurs enfants font des études, leurs enfants sont à l'abri. C'est du fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. On en est là, c'est ça. C'est des illusionnistes, tu comprends? Et les gens, ils ont la langue pendante, ils triment. Et ils croient en tout ce qu'on leur dit, et ils sont dans une souffrance vraiment, parce qu'ils ont plus de vie. Mais ceux qui les manipulent, ben ceux-là, ils ont une belle vie, hein. Croyez-moi qu'ils ont une belle vie, hein. Leurs enfants font des études, ils ont de l'argent, ils ont des maisons, ils ont tout, hein. Voilà. Alors donc, à qui profite, comme on dit, le crime, hein. Et puis ils sont bien contents, ils se frottent les mains. Parce que tu sais, quand t'as des, c'est bête ce que je vais dire, mais t'as des moutons, quoi. Alors donc tu leur dis, ah, ils te disent, ah oui, t'as vu, il a dit, hein, ces paroles d'évangile, hein, oulala, c'est un grand monsieur, lui, je le crois, attention et tout. Mais c'est juste qu'il est en train de t'endormir, quoi, parce que lui, il a une belle vie, hein, sauf que la tienne, voilà. Et il cherche des moutons, parce que quelqu'un qui, wahed, comme toi, Sofiane, qui réfléchit, d'un seul coup, t'as eu le déclic, regarde ce que tu m'as dit avec mon copain, on s'est dit, mais c'est pas possible, et tu as été observateur, tu as regardé, etc., et t'as fait, par toi, ta propre analyse. Ben, des gens comme toi, ils aiment pas trop, parce que tu réfléchis et tu risques de, si tu veux, te court-circuiter leur plan, parce que tu vas parler aux autres. Donc toi, c'était le mouton noir, quoi. On va te mettre de côté, et ils ont besoin des autres. Des autres, des cerveaux lobotomisés, et qui disent amen à tout. Et ceux qui les guident, ben ceux-là, ils sont T'inquiète pas, c'est pas avec les crédits. Hein. Ils vivent oula, en dehors de tout ça. Mais c'est terrible, terrible. Et ça, il faut le savoir. Il faut vraiment que ces jeunes prennent conscience, comme toi, tu as pris conscience du haut de tes 25 ans. Et je pense que tu as pris conscience beaucoup plus tôt, puisque tu m'en parles aujourd'hui, tu as 25 ans. Tu as pris conscience il y a quelques temps. Donc, tu étais encore plus jeune. Et je souhaite hein, vraiment qu'il y en ait beaucoup des Sofiane. Hein.
Bah écoute, il faut enfin j'espère, tu vois, que modestement si je peux apporter ma contribution.
Ah
oui. Après le truc c'est voilà, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est une certaine démagogie en fait, tu vois, c'est moi ce que j'appelle l'islamo-démagogie. Mais où oui. En fait aujourd'hui, tu sais, la vie elle est facile en fait. En fait pour chaque truc, pour chaque situation de la vie, ils ont en fait ta réponse à tout à coup de un adit, un on sait même pas d'où il vient.
Ouais.
On va t'inventer des vérités qui sont voilà des trucs et on répète bêtement voilà ce discours voilà complètement vide de sens. Et comme tu disais tout à l'heure, j'ai bien aimé quand tu disais la réalité. Le problème c'est qu'à un moment donné la réalité n'existe pas. Si tu veux, c'est une conception de la vie qui est complètement ex nihilo, c'est-à-dire que le réel n'existe jamais.
Non, voilà, c'est ça.
Donc, Moi, je m'interroge, tu vois, à un moment donné, on vit en France.
Oui.
Tu vois, on vit en Europe.
Mm-hmm.
Excuse-moi, moi, excuse-moi, cette conception-là du din, elle est complètement, moi je te dis, tu te tortures à le pratiquer pour quel résultat au final? À part te pourrir la vie.
Mm-hmm.
Et n'avoir aucun résultat, parce que le truc, c'est que, moi je me rends compte aujourd'hui, tu te mets des barrières, t'es fou. Moi je me souviens à l'époque, tu serres pas la main aux femmes, tu serres la main, tu transpires. Moi, c'est mon ami qui me disait ça, qui me dit attends, tu fais trois prières à la mosquée. Non, t'en as pas fait cinq. C'est pas assez ce que t'as fait. Tu portes le turban. Non, c'est pas assez. Il faut mettre le voile. Puis quand tu as le voile, non, c'est le gilet. Et quand c'est le gilet, c'est jamais suffisant.
C'est jamais et suffisant. Plus, oui, c'est ouais. ça.
Et en plus, on te dit quoi? On te dit, tu sais, c'est ce qui me disait mon ami. Il me dit, bah, non seulement tu fais tout ça, mais en plus, tu as peut-être quand même aller en enfer à la fin. Parce que c'est pas gagné. Donc, moi, je dis juste,
ouais, non, mais...
à un moment donné...
Ah, mais c'est tout et son contraire, hein. Parce que parfois, ils vont te dire... Non, mais ils ont une conception, mais c'est à faire fuir le plus fervent. Et au contraire, ils desservent vraiment la religion pour celui qui a un cerveau. Parce que parfois, ils te disent... Ah, mais moi, j'en ai qui m'ont dit... Dieu pardonne tout. J'ai dit oui, enfin, je sais pas, moi, je vais pas poser la question, j'en sais rien. Il vous a parlé, peut-être. J'ai dit, mais bon, peut-être qu'il y a des choses que non. Parce que dans mon esprit... je sais pas, dans mon cerveau à moi qui réfléchit, j'espère, à l'endroit, on me dit que, par exemple, un individu qui enlève un enfant, qui le viole, qui le tue, qui le torture comme l'autre, la petite gamine, là, il y a 2 ans, et puis il y en a tout le temps des enfants qui sont enlevés, qui sont tués, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, partout. J'ai dit, celui-là, à mon avis, Dieu, il va pas réfléchir à 2 secondes, hein, il va pas dire, Rafa, Rahim, attends, celui-là, je lui pardonne. Ah, ils ont la réponse, parce que tu sais, c'est ce qu'on leur dit, lobotomisé. C'est ce qu'on leur met dans la tête, te dit. Ah, si, il se repent. Pardon? Ah, si, il se repent, même s'il a tué des enfants, il se repent, à la dernière minute et tout ça. C'est-à-dire que finalement, ils ont rendu Dieu narcissique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le pire des narcissiques. Parce que lui, il cherche que sa superbe à lui, et que qu'on se repente à lui. C'est-à-dire que Hadak, l'enfant qui a été torturé, qui est mort, mesquine et tout ça, le viol, tout ce qu'il a subi, la souffrance et tout, mais c'est pas grave, c'est pas aussi grave que s'il se repent pas, quoi. Et s'il se repent, il lui pardonne tout ça à son assassin. Alors tu dis, mais quand même, il te dit, non, mais l'enfant, c'est pas grave, il va aller au paradis. Non, mais attends, rien que ça, moi, mon cerveau, ça peut pas, c'est pas possible. Et je me dis, comment il y en a qui arrivent à réfléchir comme ça? Oh, mais je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, je les fuis. Ces gens-là, je peux pas. Je les fuis. S'ils veulent pas, à un moment donné, apprendre à réfléchir avec une logique humaine et avec du cœur, c'est parce que du cœur, il faut avoir du cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'on me dise pas, il va pardonner un violeur, abuseur d'enfants, criminel, assassin, tout ça, juste parce qu'il dit à la dernière minute, Dieu, je me repens. Non, mais attendez, il faut pas jouer avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça, c'est pour mieux. Ces gens-là testent à quel point la crédulité est au point. Elle est là. Tu comprends, des gens? Parce qu'il faut être vraiment, vraiment, vraiment crédule à un point, mais inouï, quoi, pour penser une chose pareille.
Il n'y a aucune
mesure, quoi. Oui.
En plus de ça, Vanessa, il faut savoir une chose aussi, tu vois, parce que en parlant en même temps, ça me. Tu sais, je me ressasse certaines images, tu vois.
Ouais.
Faut savoir qu'en fait, si tu veux, le problème, et je le constate beaucoup, que en fait, plus t'as des failles narcissiques dans ta vie personnelle, d'accord,
ouais.
Plus tu as des problèmes, quel que soit l'ordre. Hein.
Ouais, ouais.
manque de confiance en soi. Moi, par exemple, tu vois, pour tout te dire, j'ai le souvenir que quand j'étais au lycée, tu vois, j'étais obèse, par exemple.
Oui.
Et si tu veux, en fait, plus t'as des failles, t'as un mal de vivre.
C'est ça.
Comme ça, plus en fait, si tu veux, tu vas en fait être radical, enfin être extrémiste en fait, parce que comment t'expliquer ? Si tu veux, tu n'as pas accès à certaines choses vis-à-vis d'une faille personnelle. Donc en fait, toi, tu veux l'interdire aux autres.
Oui, c'est ça. C'est une forme de vengeance à l'égard de la société, quoi. Parce que.
T'as tout compris.
Ouais, c'est ça.
Et le truc, c'est qu'en fait, et moi, c'est pour ça que moi, j'ai du mal, en fait, avec le discours de quand il se passe quelque chose, tu vois, par exemple, un attentat, c'est pour ça que moi, ça me touche, ce genre de sujet.
Oui.
On te dit, ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'en fait, moi, au final, excuse-moi de dire ça, mais le terroriste, au final, bah, pour moi, il va au bout de cette logique que colle, en fait.
Bah oui. Parce que lui,
il dit non seulement. J'empêche les autres de vivre, mais je vais même aller au-delà de ça, en fait. C'est-à-dire je vais carrément leur ôter la vie, c'est encore mieux.
Oui.
Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'après, on peut pas dire quand il y a un discours, et on sait très bien que ce discours-là, il existe, et qu'en plus, il fait des ravages, parce que moi, je te parle de mon cas, t'as vu, sur des petits trucs comme ça, tu vois, de la vie personnelle, et c'est pas méchant.
Oui.
Mais on peut pas dire que si tu veux, ça n'existe pas. Si, ça existe, et c'est le discours même qui, à un moment donné, avait pignon sur rue. Ça commence un petit peu, peut-être, à se tarir, je sais pas, en tout cas, moi, je le constate. Mais en tous les cas, c'est un discours qui a pignon sur rue, qui fait énormément de ravages dans notre petite société en France, tu vois.
C'est vrai. Et tu sais qu'aujourd'hui, les gens n'osent pas trop en parler parce que, tu sais, ils veulent pas, quelque part, titiller un petit peu la sensibilité des uns, des autres. Dès que tu abordes ce sujet, ça devient, tu vois, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais et c'est pas rendre service, justement, à la société que de pas en parler.
Totalement.
Et quand certains en parlent, parce que bon, maintenant on parle de médias et tout ça, on parle d'islamophobie, ils ont inventé un nouveau concept, islamophobie. Oui. Alors, et qu'on le met à tous les plats. Je dis pas que le racisme n'existe pas, parce que moi je dis racisme à tous les niveaux. Il y a le racisme anti-arabe, anti-noir, anti-juif, anti-blanc, anti-tout ce que tu veux, anti-femme. Hein. Alors, donc le racisme, c'est le racisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire la détestation de l'autre, le rejet de l'autre. Hadamaken, pour moi je mets tout ça dans la... Eh bien, aujourd'hui, donc il y a un nouveau concept. Alors on te dit islamophobie. Alors que celui qui n'aime pas un arabe, il n'aime pas l'arabe. Hein. Même si l'arabe, il est chrétien, parce qu'il y a des arabes chrétiens, coptes et tout. Regarde par exemple Nagui qui est présentateur à la télé, hein, qui est connu, qui est égyptien, qui est pas du tout musulman, qui est copte, donc il est chrétien. Nagui, il a une tête, il a son visage, il est de type arabe, quoi, arabe ou maghrébin. On est d'accord. Voilà. Et pourtant, il est pas, il est chrétien. Donc, les personnes qui n'aiment pas le faciès des arabes, hein, voilà, des maghrébins que nous sommes, ou qui n'aiment pas les noirs, eh bien, ils n'aiment pas les noirs et ils n'aiment pas les arabes. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ils les aiment pas. C'est ça, tu comprends ce que je veux dire. Celui qui est antisémite, qui n'aime pas les juifs, il y a des juifs qui sont pas du tout pratiquants, pas pratiquants. Moi, j'ai connu des juifs qui mangeaient même du porc, c'est parce qu'ils sont pas pratiquants, ils sont athées. Hein. Celui qui n'aime pas un juif, même s'il le voit manger du porc, il n'aime pas le juif parce qu'il est juif. Tu comprends ce que je veux dire?
Moi, donc on fait
pas.
Ça,
oui. Donc le raciste, il fait pas la distinction. Il s'en fiche ce que tu pratiques ou pas. Il t'aime pas parce que tu t'appelles Sofiane et que t'as la tête de l'emploi comme on dit. Tu l'intéresses pas en tant que Sofiane. Tu as beau lui dire, écoute, pourtant je suis chrétien moi, ou je suis ceci, ou je sais pas, je bois de l'alcool, tout ça. Il va te dire, je t'aime pas. Voilà, il t'aimera pas pour ta tête. Alors donc, et celui qui n'aime pas le français ou le chrétien, c'est pareil. Hein, c'est valable pour tout le monde. Le problème, il est juste là. Donc, on parle d'islamophobie. Alors, l'islamophobie, ça arrange certains. Ça arrange beaucoup, beaucoup, beaucoup certains. Vraiment. On m'a dit, t'as pas été à la marche et tout. Je sais pourquoi j'ai pas été. Ça arrange chacun. Il y en a, ça fait un peu.
En plus, intellectuellement.
Oui.
Intellectuellement, Vanessa, c'est ridicule parce que on peut pas demander à un non-musulman d'aimer l'islam. Ça a pas de sens. Pour moi, on peut pas demander, de la même manière que moi, par exemple, je suis musulman.
Ouais.
Je crois pas dans la mort et la résurrection du Christ. Bon, on peut pas me demander d'être cathophile.
Je
respecte les chrétiens, mais je suis pas cathophile.
Voilà.
Que je veux dire.
Et puis, donne une bonne image de ta religion, déjà.
C'est ça.
Vous êtes tous des ambassadeurs. Nous sommes tous ambassadeurs de nos pays d'origine, ou d'une religion qu'on pratique ou autre. Donc, donnons, une belle image Et un bon exemple, c'est la tenue, c'est ça qui est important. C'est pas en criant haut et fort, ouais, ils nous aiment pas, ils m'aiment pas, maintenant machin, etc. C'est pas comme ça. Ou alors, même entre nous, des fois, tu as des gens, par exemple, qui vont te dire, moi, je l'ai lu, hein, parce que tu as des personnes qui disent qu'elles ne pratiquent pas, et elles, c'est tout à fait leur droit. Et moi, je suis pas la meilleure des pratiquantes, hormis Ramadan, je fais pas grand chose. Hein. Eh bien, ceci dit. Et oui, parce que je suis plus spirituelle qu'autre chose. Donc voilà, je crois en Dieu et puis le reste, je me fais ma raison à moi. Alors donc, et chacun, voilà, c'est tellement personnel, je veux dire, une pratique. Alors donc, on a chacun sa manière de faire. Eh bien, tu as des gens qui sont dans le jugement. Alors qui vont te dire, et je le lis sur les réseaux sociaux, ah, alors si on fait pas les cinq piliers, on n'est pas musulmans. Ils ont décrété, hein. Et puis alors, comment ils vocifèrent ? Tu les entendrais. C'est écrit, mais tu les entends, hein, tellement ils hurlent. Ils te disent, oui.
Moi, le truc, Vanessa, en plus, oui. Par rapport à ça, c'est qu'en plus de ça, tu vois, moi, le truc, c'est que si tu prends, par exemple, Chana, les Maghrébins, par exemple, genre, musulman, si tu veux, si tu veux, pour moi, c'est comme être catholique. Je peux être musulman de culture sans forcément être pratiquant. La France, par exemple, elle est catholique. Tu prends un Français, sa manière de... Tu sais, les Français, on dit qu'ils sont généreux, qu'ils sont accueillants, mais c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, eux, ils ont l'évangile dans le sens, et c'est un peuple, si tu veux, comme ils sont catholiques de culture. Mm-hmm. Si tu veux, c'est dans leurs mœurs. Le vendredi, à l'époque, on mangeait du poisson à la cantine. Ils fêtent Noël, la Pâque. C'est pas par religiosité, mais c'est par culture. Bah, c'est comme, nous, au Maghreb, c'est exactement la même chose. Si tu veux, l'islam, sans forcément qu'il soit dans un musulman, un maghrébin qui est pas forcément pratiquant, mais son islam, il est culturel. Tu vois, vraiment, je vois ma maman, par exemple, elle est pas forcément dans la prière et tout, mais elle a l'islam au niveau culturel. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, le ramadan, comme t'as dit, on le fait, les fêtes, on les fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, il y a qu'une seule façon de voir les choses. La culture n'existe pas, c'est ex nihilo. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est-à-dire que le voile, c'est noir, il n'y a pas de voile, il n'y a pas d'islam maghrébin, il n'y a pas d'islam turc, c'est un islam, hors sol pour tout le monde. Et, la fomoque, en fait.
C'est ça. Je te promets que c'est ça. En tout cas, merci Sofiane, c'est tellement, prenant et intéressant de discuter avec toi. Alors, ouais. T'as beaucoup de succès, hein, parce que j'ai beaucoup de messages te concernant. Alors, j'en lis un parmi tant d'autres, je peux pas tous les lire, hein. Donc, il y a Habiba, sur Facebook, qui me dit, Vanessa, STP, s'il te plaît, embrasse Sofiane pour moi. Merci. Voilà. Et puis, elle t'offre une rose, tu sais, avec un personnage. Donc, plein de bons messages pour toi. Reste comme tu es. Tu as fait un bon parcours du haut de tes 25 ans. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir 50 ans pour être mature, pour être mûr, hein, parce que je connais des hommes de 50 ans qui ne parlent pas comme toi, crois-moi. Hein. Et voire même plus. Merci beaucoup, hein, tu as bien avancé. Mais promets-moi de revenir, hein, sur des sujets.
Je reviendrai et je t'envoierai un message en privé aussi, comme ça tu sais qui à qui tu as affaire. Voilà.
Ah, on est amis sur Facebook aussi. Eh ben, écoute, avec plaisir, mon Sofiane.
Voilà.
Avec plaisir, je t'embrasse très très fort.
Merci, c'est gentil.
À bientôt. Au revoir, Sofiane. Et puis reviens pour des débats, hein. Je te mettrai en débat avec d'autres. D'accord, ok. Très intéressant de débattre avec lui. Quelle ouverture d'esprit, puis quel bel exemple, vraiment, quel chemin il a fait. Moi, j'adore, ça y est, hein, je suis conquise. 01-53-48-3000. On a Lounès, là, qui nous appelle de Danières. Bonsoir, Lounès.
Oui, allô?
Oui, bonsoir, bienvenue, Lounès.
Bonsoir, comment vas-tu, Vanessa? Mais
écoute, je vais bien, et toi?
Tu te portes bien?
Oui, très bien, je te remercie.
Ça va, bah écoute, ça peut aller aussi. Bah moi, j'appelais pour le sujet à la base. Après, c'est vrai que ça a rebondi sur pas mal de choses, entre autres l'embrigadement, la religion. Oui,
c'est ce qu'il a vécu, justement. Parce qu'il a appelé le jour où j'avais fait l'émission. On avait fait l'émission sur. C'est le jour où il y a eu les attentats.
Peut-être.
Oui, c'est d'accord. Ça. Il avait appelé ce jour-là et on a beaucoup parlé de ça à l'époque.
D'accord. Oui. Ok. Oui, bah écoute, c'était intéressant et c'est vrai que bon, pour résumer un petit peu, ça reflète peut-être probablement. Entre autres, ce que je disais aussi au préalable dans d'autres émissions sur lesquelles on a pu échanger, entre autres avant-hier et il y a quelques mois aussi, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques mois où je n'avais pas pu non plus trop appeler. Et ça, c'est toute la problématique de faire en sorte que la spiritualité et la religion ne deviennent plus une affaire privée, mais plutôt une affaire publique et une affaire où tout le monde se mêle de ton pantalon, de ta prière, de la longueur de ta prosternation et de tout le tralala. Mais bon, je pense qu'on va tristement pas changer le monde et ce qui est bien, c'est que tôt ou tard, tu sais, quand tu ne fais pas les choses avec le cœur, que ça soit par sur la question religieuse ou sur la question amoureuse, tu finis toujours par revenir sur tes pattes et.
Ben oui, et comme tout à l'heure, notre ami, c'était qui? C'était Karima? Je sais plus. L'auditrice qui est malheureuse, quoi, qui n'est pas heureuse en amour, hein, qui est mariée avec un mari gentil.
Justement, moi, le célibat et l'amour, c'est deux sujets de prédilection qui, je pense, me suivront comme deux ombres jusqu'à la tombe. C'est des sujets que j'adore, sur lesquels j'adore débattre, parce que voilà, le cœur, on en a tous un, et ils battent tous à des rythmes différents, mais ils battent quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que les témoignages qu'on a depuis que tu as entrepris gentiment et intelligemment ce propos sur le célibat, et je te remercie de cette radio libre, parce que comme on dit chez nous, celui qui ne remercie pas les hommes ne remercie pas Dieu. Donc la gratitude passe aussi par le remerciement des causes, et cette radio est une bonne cause, donc je te remercie, et je te remercie de cette parole libre.
Merci de participer, Lounès, et tes interventions sont pertinentes, je te le répéterai jamais assez. J'ai de très très bons retours, sache-le, vraiment, et tout à l'heure encore.
Voilà. Ah, c'est très très gentil. Bah écoute, en tout cas, moi de mon côté, ce que je tenais à dire, c'est que les personnes qui appellent, entre autres tout à l'heure et hier, tu remarqueras que c'est souvent des profils similaires qui nous parlent légitimement de célibat subi. Et c'est vrai que quand on arrive en début quarantaine pour une femme en milieu de la région parisienne ou Paris intra ou extramuros, il est bien plus complexe de refaire sa vie qu'un homme qui, par exemple, s'est séparé justement début quarantaine et qui, lui, souhaite refaire sa vie. L'homme ressentira peut-être moins ce célibat parce qu'il aura plus cette facilité à rencontrer, on va dire, de manière un petit peu furtive, à avoir des relations courtes et tout le reste. Or que pour une femme, elle va être dans cette idée de préservation et elle voudra pas reproduire les erreurs primaires, les premières erreurs qu'elle a pu avoir affectueusement parlant. Donc si elle doit réouvrir son cœur à une personne, elle le fera que si, on va dire, toutes les cases sont cochées. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et ça, c'est un vrai problème, parce que beaucoup de femmes, justement, s'interdisent d'aimer à nouveau, surtout quand elles arrivent à la fin trentaine, début quarantaine. Alors, plus c'est tard, plus justement elles se referment, elles deviennent hermétiques à l'amour et au fait amoureux. Et ça, c'est un vrai souci. Et sinon, c'est des personnes qui ont un vécu et elles se disent, bon, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, vaut mieux le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, et elles finissent par accepter des situations qui sont totalement inacceptables, comme les jeux de hasard, comme des femmes qui sont battues, ou alors des dames d'une autre génération qui arrivent à 70, 80 ans, qui ont été dévouées ou même presque idolâtres à leur époux jusqu'à leur mort, c'est-à-dire elles se sont occupées de leur mari jusqu'à que celui-ci rende le souffle. Elles ont donné leur santé, elles se sont cassées le dos, elles se faisaient belles, non pas pour elles, mais à l'image de leur époux. Bref, elles ont été modelées par la main, non pas de Dieu, mais par la main de leur époux.
C'est quand même d'une tristesse
pas possible.
Nora, et elles Nora, Lounès, on va prendre Nora, qui attend depuis une heure et demie, je suis en train de voir.
Super,
là.
Pardon.
On va la prendre avec nous, tu veux bien? En tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis, et c'est la vérité en plus. Alors, on va prendre Nora là tout de suite pour notre débat. Nora?
Oui, bonsoir, chère Vanessa.
Bonsoir, Nora. Eh bien, écoute, on est avec Lounès, là, on papote. Ben, tu fais bien de.
Oui,
tu as vu la lumière, c'est bien. Tu as bien fait de frapper.
Il a un raisonnement probant, hein. Il a raison. Hein. Il a raison sur pas mal de points, et effectivement. Ben,
allez-y, je vous laisse échanger.
On tombe dans le béaba du célibat et effectivement de.
Bonsoir, Nora.
De s'effiler. Oui, bonsoir. Bonsoir, Lounès. Excuse-moi.
Comment vas-tu?
Ça va, alhamdoulilah. Ça va, on fait aller.
Alors,
bah, moi, pour la petite anecdote, Vanessa, pour la compléter, hein, je vais compléter ce que j'ai dit hier rapidement.
Oui.
Tu sais, sur les 6 contacts que j'ai pu répertorier des convertis par rapport à mon annonce, eh ben, les 6 contacts ont menti sur leur conversion. C'est incroyable. incroyable.
Mais c'est comme ceux qui sont, t'en as qui sont pas convertis, qui sont réellement musulmans et qui sont pas ce qu'ils disent. Hein. Ça existe aussi. Ah oui. Hein.
Six mensonges, vraiment.
D'accord.
Donc, pour dire, les gens vivent sur, vraiment sur des futilités.
Ah bah oui, parce que rêve, ah bah ça c'est. Ouais, mais Nora. Mais c'est à vous d'être vigilant.
Bah,
on vit dans un monde, mais oui, mais on vit dans un monde d'illusions. C'est ça. C'est que les gens se fient à l'extérieur. Arrêtez de vous fier. L'habit ne fait pas le moine. Bon sang de bonsoir. C'est ça qu'on a envie de dire.
Heureusement qu'on est vigilant aussi encore.
Il y en a qui se mentent.
Heureusement, on est vigilant. Je me suis dit, je dois te faire sourire
là. Aïe, aïe, aïe. Tu disais, Lounès.
Ben, je disais que les gens balancent un hameçon et avant de balancer l'hameçon, ils essayent de voir si le poisson justement répond au cahier des charges, c'est-à-dire s'ils vont voir que la personne est en attente d'une personne religieuse, alors ils vont lui balancer 2-3 hadiths à l'eau, comme je les appelle, ouais. Ou alors si la personne est plutôt intéressée par le sport, eh bien la personne va s'adapter, il va faire du sport. Et ça aussi c'est le problème.
Mais ça c'est l'époque qui veut ça, c'est parce que de toute façon
c'est
aujourd'hui.
Crédule de beaucoup de personnes.
Mais oui, tout à l'heure on parlait d'illusionnistes. On est en plein dedans là. Pourquoi? C'est parce que en fait ils ont raison quelque part. Enfin ils ont raison. Je fais une boutade là. Hein. Alors quelque part pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on peut facilement embobiner les gens. Voilà.
Ouais,
donc, à tout niveau. Il nous l'a dit, là, le petit jeune, la Sofiane, juste avant. Eh bien, juste avant, lui, il s'est fait embobiner quand il était encore plus jeune, etc. On lui a mis plein la tête. Alors, donc, on lui. Voilà. Donc, c'est, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc, ça sert les intérêts. De toute façon, ça sert toujours les intérêts des uns. Et dites-vous une chose. Derrière les religions, derrière tout ce que vous voulez, ceux qui essaient de vous manipuler, c'est jamais gratuit. C'est jamais. Regardez un peu leur niveau de vie. Regardez leur niveau de vie et vous comprendrez. C'est tout. Tout simplement. Si c'est un homme qui vient du désert, qui marche pieds nus, si c'est l'abbé Pierre, comme il était l'abbé Pierre, hein, tout en guenilles presque. Là, ok, vous pouvez croire en ses paroles. Mais si la personne, elle a des biens, elle a argenté, tout ce que vous voulez, et qui vous dit, non, ça c'est haram, ça c'est... Mais comment vous pouvez croire? Mais pire crédule que vous, il n'y a pas, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi.
Non, mais ça,
finalement, les gens méritent leur sort.
C'est une question. Tu sais, Vanessa, moi, je pense que comme on le disait les jours qui sont passés, ça, c'est une question, pour moi, de psychologie des foules et d'avancée des masses. C'est-à-dire, les gens ont besoin de, justement, suivre le groupe. Si tu es dans un groupe et qu'il y a 10 personnes qui se lèvent, eh bien, si tu restes assise, tu vas paraître bizarre. Donc, ça, c'est même plus de la religion dans ce cadre-là, c'est du suivisme. C'est vrai, et bon, il y a ce besoin de faire partie de, enfin, d'être dans une appartenance. Mais le sujet de l'amour, enfin, pour moi, il est très très important.
Oui, alors vas-y, c'est important.
Tous besoin d'être amoureux. Et même si l'amour dure que peu, il faut le vivre et il faut le vivre pleinement. Aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent rester dans la tristesse dans un cadre social ou sociétal. Plutôt que d'être amoureux, eh bien, cette personne qui avait appelé tout à l'heure, elle m'avait fait vraiment mal au cœur quand elle disait que son cœur était à un homme, mais que son corps était à un autre homme quelque part.
C'est
moi,
terrible,
j'ai retenu comme ça.
C'est
terrible. Parce que rentrer chez soi avec une boule d'angoisse le soir, et puis être à côté d'un homme dont on n'apprécie ni le physique, ni la voix, ou alors d'une femme, hein,
parce
que le cas contraire peut aussi être, et
ça
peut être. Ça, c'est malheureux. Il faut, à mon avis, vu qu'on n'a qu'une vie terrestre, en tout cas, ne pas refouler ses attentes et ses envies. Et l'amour, c'est quelque chose de sain. Si le cœur appelle à quelque chose, et de manière conséquente, je veux dire, l'amour, c'est pas malsain, c'est pas dégueulasse. Il faut pas dire non à son cœur. Il faut structurer son amour. Ça, c'est une certitude. Faut pas y aller comme un taureau foncé dans le drapeau rouge. Mais... il ne faut pas dire non à son cœur. Il faut le vivre pleinement, son amour.
Eh ben c'est bien dit, c'est le mot de la fin.
Synthétiser, Vanessa.
Non, mais ça y est, vite,
si
vite.
Tu me permets rapidement. Je trouve qu'il y a un malaise générationnel qui est lié à un manque de communication criant à notre
aussi,
époque.
Aussi. En tout cas, merci Nora, merci Lounès. Je vous embrasse très fort. Et revenez lundi. C'est fini pour ce soir. Terminé. C'est...